Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Les petits amis, bienvenue. Ça roule? Incroyable. Incroyable. C'est lundi, on est lundi. Ça s'est bien passé le week-end? Vous avez fait quoi ce week-end? 8e attentat islamique en 6 mois en Allemagne, on en pense quoi? Alors je vois pas très bien ce qu'il faut avoir à penser d'un attentat, mais ça s'inscrit dans une perspective évidemment électorale. Parce que je rappelle que les Allemands vont voter, non, ont voté, pardon, ont voté pour les élections générales. C'était la semaine dernière. Ouais, non, remarque, du coup ça tombe à l'eau ce que je suis en train de raconter, parce que non, tu fais pas un attentat après l'élection si tu veux avoir un impact sur l'élection. J'ai jamais posé la question, Protos, Zerg ou Terran? Oh bah Terran, Terran, Terran comme tout le monde. Fini mon examen de formation, donc relâche. Ah ça c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Zerg perso. Non mais c'est bien, c'est bien. Horde ou Alliance si on va par là? La Horde ou l'Alliance, ça c'est une bonne question ça. Moi je dirais l'Alliance, juste pour faire chier les Hordes. Vous connaissez mon esprit taquin? À la recherche d'un taf, donc ma semaine c'est un week-end. Ah formidable. Formidable les gens qui ne font rien ou pas grand-chose. Comme moi. Vous aussi vous êtes dans la Yes Life. Enfin c'est pas vraiment la Yes Life, c'est la Twitch Life. Moi, je suis souffrant et sous antibiotiques pour quelques jours. Courage. Courage, courage, courage. Regardez le stream pour rester dans le déni des partiels de cette semaine, c'est super cool en vrai. Courage les partiels, courage les examens. On est quoi? On est en mars? Ouais, mars, ouais. C'est un peu tard pour des partiels, mars. C'est pas janvier-février normalement? Moi, j'écoutais Le Pen à l'Assemblée. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a en ce moment même à l'Assemblée nationale un débat sur la situation de la guerre en Ukraine, 3 ans après le début du conflit. 3 ans? Ou plus? Enfin non, oui, il y a eu 2014, mais bon, bref. Oui, c'est bien 3 ans, ouais. 3 ans pile et dans un contexte assez tendu, vous avez tous vu, je suppose, les images de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison Blanche se faire engueuler, gronder comme un enfant et humilié par Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Et c'est dans ce contexte-là, il y a eu un sommet aussi qui s'est tenu le week-end dernier en Europe sur la question de l'Ukraine et de l'aide à apporter à l'Ukraine. Et voilà. C'est donc un débat qui est organisé à l'Assemblée nationale, un débat qui n'est pas suivi d'un vote, hein, il n'y a pas d'engagement de la part de l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale a la possibilité d'organiser de simples débats. Je vous rappelle qu'un débat, c'est juste une succession de prises de parole des orateurs des différents groupes de l'Assemblée nationale. C'est Trump qui s'est humilié. Oui, à nos yeux d'Européens, oui, mais bon, qu'est-ce que Trump il en a à foutre de nos yeux d'Européens? C'est pas. Voilà, je crois qu'il a été assez clair, Donald Trump, sur le fait que son seul intérêt, c'est lui-même et l'intérêt des États-Unis dans un rapport de force musclé entre grandes puissances. Donc, je veux dire, ce que des Français peuvent avoir à penser de sa politique, pas son problème, pas son enjeu. Hop. Macron est le nouvel homme fort du monde libre. Je trouve que toutes les critiques venant des partis politiques français est une entrave à la politique internationale de la France et un copinage avec la Russie. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Macron est le nouvel homme fort du monde libre. Macron est incontestablement l'un des leaders européens les plus importants. Est-ce que pour autant on peut en faire l'apanage d'un monde libre au sens de, par le passé, les États-Unis étaient le bout de l'épée du monde libre face à l'obscurantisme des dictatures, etc. je sais pas si on peut aller jusque-là. Les critiques venant des partis politiques français est une entrave à la politique internationale de la France et un copinage avec la Russie. C'est intéressant que tu dises ça parce que la critique de l'action d'un président de la République en exercice par ses opposants, ça fait justement partie du monde libre dont tu parles et que tu sembles apprécier. Et c'est parce qu'on est en démocratie qu'on peut encore ouvrir nos gueules pour dire que Macron fait n'importe quoi. Je sais pas si Poutine peut en dire autant dans son pays. Donc, non, c'est pas un copinage avec la Russie que de vivre dans une démocratie dans laquelle on peut librement critiquer le président. Et non, ce n'est pas une entrave à la politique internationale de la France qu'il y ait des opposants en France qui aient des critiques à formuler à l'égard de ce que dit et de ce que fait le président de la République. Au demeurant, ça l'a jamais empêché. Donc, ne vous empêchez pas de critiquer Macron sous prétexte que ça donnerait du grain à moudre à la Russie. Il est vrai cependant, et tu as peut-être raison en disant ça, que la Russie n'hésite pas à intervenir et à ingérer dans les affaires intérieures de ses pays adversaires pour en trafiquer les élections. Et pour en faire monter toutes les tensions possibles. On l'a vu, on le sait, c'est documenté maintenant. La Russie cherche à appuyer là où ça fait mal pour déstabiliser les démocraties. C'est comme ça qu'on a appris que c'était des agents russes qui avaient tagué des croix gammées, des, pas des croix gammées, des étoiles de David bleues, je sais plus quand, à Paris. Pile poil le sujet, l'un des sujets du moment sur lequel les Français se déchirent. Donc voilà. Malgré nos divisions, nous restons solidaires face à la Russie et maintenant les États-Unis. Oui, puis par ailleurs, oui, t'as raison. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des débats démocratiques que ça nous empêche d'être alliés objectivement des Ukrainiens, tu vois. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour ceux qui le sont. Il y a un début de mouvement où les gens prennent conscience qu'il faut acheter européen. Il y a effectivement, tu as raison, un mouvement. Restons sûrs de nos propos quand même. En tout cas, il y a une sensibilité accrue en Europe sur le rejet d'un certain nombre de produits d'origine américaine. Il y a des appels au boycott de McDonald's, de Coca-Cola. Et ça va dans le sens, effectivement, de gens qui réfléchissent à d'où viennent les produits que j'achète, et si je me mettais à acheter européen, c'est toujours une très bonne chose. J'arrive pas à comprendre pourquoi Trump s'aligne avec Poutine. Quel intérêt pour les États-Unis? Bah, en fait, Trump s'aligne pas absolument avec Vladimir Poutine. Il ne fait pas la politique de Vladimir Poutine. Trump voit son intérêt à lui dans les circonstances de ce qui est en train de se passer. Donc l'isolement de la Chine, et puis les terres rares et les minerais ukrainiens. Là, pour le coup, c'est très clair. Donald Trump fait du racket à l'Ukraine en disant: Ah, tu veux qu'on t'aide dans ta lutte contre la Russie? Ok, bah en échange, tu nous files tout ce que t'as. C'est vraiment un mec qui est en train de se faire tabasser sous tes yeux, il t'appelle à l'aide. Et toi, tu lui dis, attends, attends, avant que je t'aide, tu me files ta montre si je t'aide? C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment. Non, faut voir, faut discuter, tu vois. On verra si je t'aide ou pas, tu vois. Bon, bah voilà, c'est exactement ça. Et les intérêts de Trump peuvent être différents des intérêts des États-Unis aussi. Alors. Ça, il faudrait avoir une grande discussion pour savoir quels sont les intérêts des États-Unis. Est-ce que Trump ne vise que ses intérêts à lui ou ceux des États-Unis, etc. Est-ce que les deux sont mêlés en partie ou complètement? C'est aussi à discuter. Oui, t'as raison. Ils lui ont filé 350 milliards avant de lui taxer sa montre. Oui, voilà, donc c'est encore pire, quoi. C'est encore pire. On t'a aidé jusque-là, mais si tu veux que ça continue, ça va te coûter de l'argent. C'est vraiment le summum du chantage le plus glauque. T'imagines si les Américains, ils avaient fait pareil pour la France et l'Europe contre le nazisme? Ils s'apprêtent à débarquer, puis ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent à quelques milles des plages comme ça, et puis ils disent « Attends, 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 De Gaulle, si on débarque, on est d'accord que tu nous files le pays, hein? » Ils disaient que ce chantage... Non, parce que sinon, on fait demi-tour, hein? Ah bah désolé, tu vas continuer avec la Gestapo et tout, hein? Ah ouais. Pour continuer le débarquement, faut acheter le DLC. C'est pas le principe du plan Marshall? Ah non, 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 le plan Marshall, c'est pas ça. Le plan Marshall, c'était un plan des États-Unis pour limiter, pour relancer économiquement l'Europe de l'Ouest, pour empêcher la progression du communisme. Les nazis étaient plus là, hein. Il n'y avait plus de nazis, hein. Le plan Marshall, c'était il faut absolument qu'on soutienne les États européens, notamment leur croissance économique, leur développement, etc. Parce que sinon, ils vont avoir des révolutions et puis ça va finir. Ça va finir de l'autre côté du rideau de fer. Le rideau de fer sera au milieu de l'Atlantique. Parce qu'ils ont réellement été utiles avec leur débarquement. C'est-à-dire, dire que le débarquement en Normandie n'a servi à rien? Enfin, sauf si t'es nazi. Après, effectivement, oui, non, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Si t'es nazi, d'un point de vue purement, d'une perspective purement nazie, c'était pas ouf, le débarquement. Mais c'est. Si tu veux, hein. J'arrive au meilleur timing. Ouais, pardon, excuse-moi. On est en train d'adopter la perspective nazie pour faire preuve de distance critique. Toujours oui, mais il y a toujours deux versants à une histoire. Puis de toute façon, l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs. Donc, faut voir. C'est pas si simple que ça. Voilà. Petit relativisme nazi. Enfin, pro-nazi. La libération des camps était une très mauvaise nouvelle pour les gardiens. C'est horrible! C'est vraiment atroce. Ah non, mais... C'est juste un salut romain. Oh, ça va, c'est juste un salut romain. Bon, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la perspective. Y a quoi aujourd'hui? Bah, écoute, on était en train de discuter de Zelensky, de Trump et de l'actualité politique internationale assez chargée. Ce qui tranche quand même, il faut le dire, avec la politique nationale française. La politique française aujourd'hui, elle est dans un monde ventre mou par rapport à l'année 2024 qu'on a connue, qui a été une année très chargée. Je vous rappelle quand même, avec une élection européenne, puis une dissolution surprise, puis des atermoiements de Michel Barnier, puis la censure de Michel Barnier avant Noël. Voilà, 2024 a été chargé. 2025 a commencé avec la bataille sur le budget, qui a finalement été adopté par 49-3. Et depuis que le budget est adopté, ça fait quoi? Ça fait un mois là. Bon, on sent que ça se relâche un petit peu. Ça se relâche un petit peu dans le sens où l'intensité de l'actualité politique nationale en France est moins importante, mais par contre, au niveau international, ça s'agite fort. Je veux dire, les prochains projets de loi qui sont attendus de la part du gouvernement, c'est sur l'agriculture, l'immigration, c'est toujours un point d'interrogation. Je ne sais pas s'ils ont engagé le projet, peut-être la fin de vie. Tu sens qu'on est, voilà. Il n'y a pas de motion de censure en vue. Là, en l'état actuel des choses, non, il n'y a pas de motion de censure en vue. Et l'affaire Betaram, l'affaire Betaram, elle a excité surtout les opposants à gauche. Mais du reste, il n'y a pas vraiment de conséquences immédiates, ni pour François Bayrou, ni pour le reste de l'agenda politique du gouvernement, ni pour celui des partis, etc. Donc, voilà. Les vacances parlementaires. Oui, et puis par ailleurs, il y a eu une semaine de vacances parlementaires, mais ça, elle a lieu tous les ans, donc c'est pas vraiment ça qui fait ou pas le truc, quoi. Est-ce que tu penses que Macron fait bien de laisser Bayrou tout faire? Oui, je pense. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron fait bien. Alors, quand je dis il fait bien, sur ce point-là, c'est autant du fait qu'il fait bien parce que je préfère, à titre personnel, qu'il continue à s'effacer, que parce que je pense que ça sert plus ses intérêts à lui. Emmanuel Macron est dans une situation particulière. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas d'avenir politique immédiat. Il n'a pas besoin d'en avoir. Il ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc, Emmanuel Macron, là, il a moins besoin, il ne joue pas la réélection, etc. Il a moins besoin de se montrer présent sur tous les sujets au quotidien, de prendre sur lui l'opinion publique des Français, etc. Donc, il laisse faire le jeu politique, il laisse faire François Bayrou, d'autant que Emmanuel Macron, il est loin d'être bête, d'autant qu'il suit assidûment mes streams, donc il sait. Qu'on est dans une situation parlementaire tellement instable et tellement difficile que de toutes les manières, François Bayrou est un Premier ministre relativement faible. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ni de capacité d'initiative. Le temps des grandes réformes est un peu passé, donc Emmanuel Macron se tient en retrait. Voilà. Pour toutes ces raisons, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron fait bien de se tenir relativement en retrait. Bon, il se trouve que l'actualité internationale est en train de chauffer très fort et que là, le président de la République, en ce qu'il est le représentant de la nation, etc., joue un rôle important. Donc, c'est pour ça qu'on voit Emmanuel Macron dans le bureau ovale, qu'on voit Emmanuel Macron dans un sommet international. Emmanuel Macron a même fait un live sur TikTok, sur Twitter, sur Insta, etc., il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je sais plus, pour répondre à plein de questions sur le sujet. Donc voilà, Emmanuel Macron, il est dans son costume de chef de l'État, chef des armées, la diplomatie, tout ça, tout ça. Donc il est bien occupé. Il est bien occupé là-dedans, et il n'a pas à s'occuper du coup du détail de la loi agricole. Ça devrait être l'unique rôle du président de la République. Le reste du pouvoir exécutif national devrait revenir au Premier ministre et à son gouvernement. C'est effectivement comme ça qu'avait été pensée un peu l'architecture du bordel autour de la personnalité de Charles de Gaulle. Sauf qu'à l'usage, il s'est avéré que le suffrage universel direct a un peu changé la donne, faisant du président de la République un président gouvernant dès lors qu'il avait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc je constate comme vous qu'effectivement Emmanuel Macron se tient en retrait. Emmanuel Macron se tient en retrait de la vie politique nationale et à mon avis, il a raison de faire ça, il devrait continuer à faire ça, quoi. Mais bon. En fait, l'actualité politique nationale se passe à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui fait ou défait les gouvernements. C'est ce qu'on a vu avec la motion de censure, c'est ce qu'on a vu avec le budget. Voilà. Tu regardes pas les QAG aujourd'hui? Il n'y a pas de QAG le lundi, les QAG c'est le mardi et le mercredi. Donc, ouais. J'ai un article à lire, si vous voulez, de Mariama Daram dans Le Monde, sur le trumpisme qui infuse la politique française. Est-ce qu'il y a des éléments du trumpisme dans la vie politique française? On va regarder. C'était pas le bon bouton. Pardon, excusez-moi. C'était celui-là. Zou. Comment le trumpisme infuse dans la politique française? Brutalisation du débat, remise en cause de l'état de droit, anti-étatisme. Malgré un fort rejet dans l'opinion, une partie de la droite et l'extrême droite entendent décliner dans l'Hexagone les méthodes du président américain. Ils ne pourront plus se dérober. Lundi 3 mars aura lieu à l'Assemblée nationale un débat sur l'Ukraine. L'occasion pour l'ensemble des groupes politiques de se positionner face aux bouleversements géopolitiques. Sans précédent après 1945, impulsé par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Sa manière brutale de faire de la politique, comme lors de son altercation vendredi 28 février avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi certains points de son programme, lutte contre l'immigration, coupe claire dans les dépenses publiques, infuse jusque dans l'Hexagone. De l'autre côté de l'Atlantique, le monde politique français peine à digérer le spectacle trumpiste. Sidération, indignation, fascination, attentisme. Rares sont ceux qui expriment sans détour une pensée sur le sujet. Les partis sont paumés, soutire Jean-Louis Bourlange, l'ancien président centriste de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Aucun d'entre eux n'offre une analyse très claire des tenants et aboutissants du trumpisme. Eh ben, je suis pas sûr que le MoDem en fasse beaucoup plus, Jean-Louis, mais ok, admettons. Cependant, face à la perspective d'un désengagement américain sur le front ukrainien, un relatif consensus s'impose pour réaffirmer la nécessité d'une réponse européenne en matière de défense. Ça, c'est intéressant. Il y a un relatif consensus, il y aurait un relatif consensus dans la classe politique française pour que l'Europe prenne le pas sur les États-Unis dans l'aide à l'Ukraine. Intéressant. Les choses sont plus marquées si l'on regarde du côté de l'opinion. Ainsi, Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos, rappelle que les Français, de la France insoumise jusqu'aux Républicains, expriment massivement leur inquiétude quant au retournement américain. Une majorité écrasante a d'ailleurs une image négative de Donald Trump, à l'exception notable des sympathisants du Rassemblement national. Détail, Monsieur Teinturier. Intéressant. Intéressant. C'est du côté du RN que Trump a le plus de soutien, relatif bien entendu, mais enfin quand même. Les électeurs du RN, donc, sont également inquiets, mais une forte minorité d'entre eux, environ 40%, relativise le retournement de Trump, notamment sur la question de la sécurité en Europe et en Ukraine. Une singularité liée aux prises de position anciennes du parti d'extrême droite. Pour Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, le RN est désormais pris en étau entre sa critique des États-Unis et l'envie de soutenir un homme appartenant peu ou prou à la même famille idéologique. Le Rassemblement national s'est construit autour d'un illibéralisme qui le rapprochait de la Russie poutinienne. Mais depuis la guerre d'Ukraine, cette ligne est devenue intenable, explique M. Badi. Elle a été compensée par une critique des États-Unis et de l'OTAN, mais qui est aujourd'hui compromise, étant donné que Trump représente une sensibilité idéologique proche de celle du RN. Or, avec le procès croissant du trumpisme, le RN renouvelle son cauchemar russe. Comment critiquer les États-Unis alors que l'un des leurs est arrivé à la Maison-Blanche? Putain, le RN, ils savent plus où donner de la tête. Avant, ils étaient pro-russes. Bon, bah, c'était plus possible. Après, ils sont devenus anti-américains. Bon, bah maintenant que c'est Trump qui a gagné, c'est plus possible. Qu'est-ce qui nous reste? Comment on fait? Alors que l'opinion demeure attachée très fortement aux valeurs démocratiques, une fraction très minoritaire de celle-ci, nichée dans l'électorat d'extrême droite et un petit segment de l'électorat des Républicains, est sensible à l'exercice du pouvoir trumpiste. Sans approuver ce que fait Trump, il y a l'idée qu'il défend les intérêts de son pays. Il y a aussi une espèce de mystique autour de ces décrets signés à tour de bras dès son arrivée et qui fabriqueraient du résultat instantanément. Sans oublier la fascination pour les rapports de force qui ne s'embarrassent pas d'un certain nombre de normes et de valeurs, poursuit M. Teinturier. Ouais, mais ça c'est l'autoritarisme pur ça. Il y a effectivement une mystique qui plaît à certains électeurs de se dire, eh quand même, non mais ça fait du bien quand même, hein. Un chef de l'État là qui signe des décrets à tour de bras dès qu'il arrive pour dire maintenant c'est terminé, fini les conneries, maintenant on coupe dans les budgets, on supprime des départements entiers de services publics qui servent à rien, etc. C'est vrai qu'il y a un truc qui peut être séduisant chez des personnes qui ont une critique assez acerbe de l'étatisme, quoi. Une forme de dégagisme, hein. Tu me diras, il y en a d'autres, y compris à gauche d'ailleurs, qui sont plutôt dégagistes en disant qu'ils dégagent tous, vous verrez quand on va arriver, ça va changer du jour au lendemain, etc. C'est effectivement quelque chose qui peut être très attrayant. Cette rapidité de l'action publique, décisive, décidée, ça me fait un peu penser à Nicolas Sarkozy et son volontarisme politique, il suffit de le vouloir, vous allez voir, c'est la fin de, c'est le début de l'impunité, tolérance zéro. C'est la fin de l'impunité, pardon. On va prendre des décisions fortes. La France mérite des réformes ambitieuses, rapidement, etc. Donc, ouais. Non, non, mais je comprends. C'est effectivement, il n'y a pas de raison que la France soit totalement hermétique à cette manière-là d'envisager le politique, quoi. En France, cette trumpisation des esprits est incarnée principalement par le parti Reconquête et ses deux têtes d'affiche, Éric Zemmour et Sarah Knafo. Le couple de polémistes loue régulièrement la figure du président américain depuis la campagne présidentielle française de 2022. En janvier, l'eurodéputé Sarah Knafo a assisté à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Ce qu'il a dit dans son discours, c'est mon rêve que ça nous arrive un jour en France, disait-elle alors sur CNews, avec un cocktail de mesures plébiscitées par l'extrême droite. Fermer les frontières, protéger le marché intérieur, mettre fin à tout ce délire woke et transgenre, etc. Effectivement, le rêve humide des fascistes se réalise à l'ouest. Intéressant. L'autre ambassadeur autoproclamé du trumpisme en France, le député des Alpes-Maritimes et président de l'Union des droites pour la République, Éric Ciotti, allié du RN, se dit, lui, fasciné par l'Amérique de Donald Trump, qui serait, à ses yeux, un avion supersonique que manifestement rien ne peut arrêter. Ouais, sauf qu'on n'a plus de carburant, quoi. Quand la France ressemblerait à une vieille 4L sans GPS, sans climatisation, qui ne sait pas où elle va. Ouais, mais elle est solide. Elle est solide et tout le monde l'aime. Ouais, mais ça c'est deux trucs que t'auras jamais, Eric, hein. Pardon. Et vive la 4L. Moi, je suis team 4L, hein. Entre l'avion de chasse et la 4L, si c'est ça le jeu. De son côté, la leader du RN, Marine Le Pen, commente peu les nouvelles orientations du président américain, elle qui assurait en 2016 dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, je choisirais Donald Trump si elle avait dû voter en tant qu'américaine. Alors qu'elle s'est heurtée à sa rediabolisation lors des élections législatives de 2024, l'élu du Pas-de-Calais ne compte pas être associé aux excès de l'américain. Alors, la rediabolisation de Marine Le Pen lors des législatives de 2024, je suis pas tout à fait d'accord. Je veux dire, elle a quand même fait plus d'une dizaine de millions de voix dans les urnes au premier tour. Et la diabolisation s'est matérialisée au second tour par un front républicain, mais c'était un front défensif, hein. Je veux dire, le RN a un nombre de députés aujourd'hui qui est supérieur à tout ce que le RN n'a jamais eu par le passé. C'est même plus que tous leurs députés cumulés dans l'histoire. 130 députés, j'appelle pas ça une rediabolisation, hein. Le président du RN, Jordan Bardella, et certains de ses lieutenants continuent, eux, d'invoquer comme modèle le volontarisme de Donald Trump sur l'immigration ou le protectionnisme économique. On peut apprécier le patriotisme de Trump sans vouloir nécessairement que la France se place dans une position de vassal à l'égard des États-Unis d'Amérique, a soutenu l'eurodéputé le 20 janvier sur France 2, anticipant un retour de la guerre commerciale menée par les États-Unis contre l'Union européenne. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un moment, bon, l'extrême droite qui fantasme sur Donald Trump, faut quand même leur rappeler de temps en temps que Donald Trump, il a augmenté les droits de douane sur les produits français. Donc, je veux dire, c'est. Enfin, bon, tu me diras, c'est des nationalistes en carton, comme d'habitude, mais si t'es un chouïa nationaliste et un peu patriote, tu défends l'exportation française, tu vois. Mmh. Ils vivent avec leurs incohérences. Au demeurant, n'en avons-nous pas tous? Donc ça, c'est effectivement les incohérences. Pour autant, la radicalisation d'une partie du monde politique date de bien avant l'élection de Donald Trump. Comme outre-Atlantique, une partie de la droite et de l'extrême droite utilise la liberté d'expression en tant qu'arme rhétorique. Cela permet de tout justifier et surtout de renvoyer ses adversaires dans le camp des censeurs. Il en va ainsi, par exemple, des attaques contre l'état de droit, notamment contre certaines juridictions comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, en plus, ce n'est pas des petites juridictions. Voilà. Laurent Wauquiez, président des députés LR, s'est ainsi fait remarquer au moment de la censure, en janvier 2024, de plusieurs dispositions de la loi immigration par le Conseil constitutionnel par l'expression « le coup d'état de droit ». Le coup d'état de droit, putain. Faut le dire quand même, hein. Quand t'as un parti politique qui s'appelle Les Républicains et que tu parles de coup d'état de droit à propos d'une décision de justice. Une manière de faire de la politique très trumpiste pour Cécile Alduy, sémiologue, professeure de l'université à Stanford, à l'université de Stanford, et chercheuse associée au Centre de recherche politique de Sciences Po. Le parallèle entre les attaques contre les instances qui garantissent l'état de droit en France, qui reste pour l'instant verbal, et celle que conduit effectivement l'administration Trump en temps réel aux États-Unis est tout à fait justifié, avance Madame Alduy. Les attaques verbales sont précédées ici aussi. Non, pardon, les attaques verbales ont précédé ici aussi un démantèlement effectif de toutes sortes de régulations protectrices des États-Unis. Donc ce qu'elle veut dire, c'est que jusqu'à présent, ce ne sont que des mots, c'est des grands discours un peu grandiloquents de droite sur le thème, le gouvernement des juges, le coup d'état de droit, l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. Pour l'instant, ce ne sont que des mots, mais aux États-Unis, ça a aussi commencé par des mots. Et aujourd'hui, ce sont des actes, des décrets, des décisions précises qui sont prises pour démanteler l'état de droit. Ainsi, l'une des premières décisions du milliardaire Elon Musk, nommé par Donald Trump à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, a été de fermer plusieurs agences gouvernementales, comme l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, chargée de l'humanitaire et du développement économique à l'étranger. Un exemple pour Sarah Knafo, l'eurodéputé zémoriste a accusé le 17 février sur CNews l'Agence française de développement, par ailleurs partenaire de l'émission Backseat sur Twitch, de dilapider l'argent public. Des attaques réfutées par le gouvernement et l'AFD, mais reprises en une du journal du dimanche, une semaine plus tard. Scandale, les milliards engloutis de l'aide aux pays étrangers. L'extrême droite sort la sulfateuse, inspirée par Donald Trump, et tabasse l'Agence française de développement, qui est l'équivalent français de ce qu'était l'USAID, qui a été rayé d'un trait de plume par Elon Musk. Incroyable. Car dans la trumpisation du débat politique, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré joue un rôle particulièrement important, créant un écosystème politique autosuffisant. Ses journaux, le journal du dimanche et JD News, et ses chaînes de télévision et de radio, CNews et Europe 1, mettent en avant des personnalités délivrant des messages conformes à la ligne éditoriale de ces médias. En plus, ils s'invitent les uns les autres, ça marche vachement bien. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'est la fermeture de la chaîne C8 le 28 février après le non-renouvellement de la fréquence de cette chaîne détenue par M. Bolloré ait suscité l'ire de l'extrême droite et d'une partie des caciques des Républicains. Tous ont dénoncé la censure des autorités alors que son animateur phare, Cyril Hanouna, avait écopé de 35 sanctions dues aux nombreux incidents et dérapages survenus lorsqu'il était à l'antenne. Cette décision de fermeture de C8 est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait, a pourtant attaqué M. Wauquiez le 19 février sur son compte Facebook. L'extrême droite a réussi à imposer son narratif, selon lequel toute régulation est égale à une censure. Ce discours porte en lui une forme de suicide démocratique, car derrière cette liberté d'expression absolue, c'est la légitimation de la loi du plus fort qui est glorifiée, défend l'historien des médias Alexis Lévrier. Je suis bien d'accord avec lui. Un hasard, sur CNews, l'animateur Pascal Pro s'évertue émission après émission à encenser le pouvoir de Donald Trump et à établir des convergences avec l'état de la société française. Les combats de Trump sont largement partagés par la société française qui majoritairement penche à droite. Hélas, si Trump fédère tous les courants de la droite classique entre libéralisme et conservatisme, personne en France ne rallie toutes les droites, a-t-il déploré sur CNews au lendemain de l'élection du président américain. La grande union des droites, la grande union des droites par-delà le cordon sanitaire qu'il faut oublier et remiser aux oubliettes, qui saura un jour incarner toutes les droites françaises, libéralisme et conservatisme, nationalisme et internationalisme. Internationalisme, faut le dire vite. Hein. Européisme, on va dire. Donc voilà quoi. Ça a toujours été le drame de la droite. Hein. L'union des droites, le fantasme absolu. Qui n'a jamais existé. Est-ce qu'il y a Baxit ce jeudi? Ouais, il y a Baxit ce jeudi. Et en invité politique, nous recevrons le député Manuel Bompard, qui est par ailleurs coordinateur national du parti La France Insoumise. Il viendra nous parler de son parti. Enfin, on va parler d'autre chose, hein, mais... Est-ce que tu penses que Betaram peut être relancé au QAG demain ou la séquence est finie? On verra demain, on verra demain. Il y a peut-être des députés qui vont vouloir relancer la séquence Betaram, mais est-ce qu'on a des éléments nouveaux sur lesquels le Premier ministre s'est pas déjà exprimé? Et si les suites sont judiciaires, elles sont judiciaires. Et si les suites sont du côté d'un travail de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête, bah ça prendra le temps de la commission d'enquête, qui mènera son travail sur le fond. Est-ce que des gens ont voté pour Bompard pour qu'il soit coordinateur? Non, mais c'est pas comme ça que ça marche à la France Insoumise. L'union des gauches en 2027 derrière un candidat autre qu'issu de LFI, est-ce que tu y crois? Non. Non, mais enfin, je... Pour reprendre les paroles d'un certain Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas besoin de candidat unique au premier tour pour remporter une élection présidentielle. La gauche peut être divisée au premier tour. Au demeurant. À chaque fois que la gauche a remporté une élection présidentielle dans ce pays... Elle était divisée au premier tour. Donc c'est pas une condition sine qua non de la victoire. Après, il faut qu'il y ait un mouvement derrière qui porte un candidat quand même, évidemment. Ça peut pas être divisé au point d'être morcelé, c'est pas la même chose. À chaque fois qu'elle l'a perdu aussi. À chaque fois qu'elle l'a perdu aussi, tu as raison. Tu as parfaitement raison. J'ai l'impression que la droite se morcelle autant, voire plus que la gauche. Ça dépend des années. Ça dépend des années, ça dépend des candidatures, ça dépend des conditions, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas à toutes les élections, on n'a pas toujours vu une droite divisée. Par contre, quand elle est divisée, elle l'est franchement. Tu as vu qu'il y avait l'après avec des anciens de LFI qui étaient apparus. Oui, j'ai vu les purgés de la France Insoumise se sont réunis dans un collectif qui s'appelle l'après, dont je n'ai pas d'informations à l'heure actuelle sur ce qu'ils vont faire. Ce qui c'est pas vraiment un parti politique à une structuration une base militante, etc. C'est un collectif. On verra s'il sera amené à peser d'une manière ou d'une autre. Le climat politique international est-il bon pour le RN? Bah, c'est une bonne question que tu poses. C'est une bonne question que tu poses. Parce que j'essayais de réfléchir à ça en lisant l'article tout à l'heure, parce que le RN peut-il souffrir électoralement d'une rupture brutale entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique? Rappelez-vous quand le RN faisait des performances électorales un peu mornes après le début de la guerre en Ukraine. Enfin, je dis ça, mais bref. On se posait un peu la même question sur le rapprochement avec la Russie. Je sais pas. Si Donald Trump devient un repoussoir, y compris à droite, par patriotisme français, tu vois, par nationalisme, même presque, en disant les Américains, ils sont fous avec Donald Trump et tout, est-ce que les gens vont quand même aller voter Marine Le Pen alors qu'elle a des atomes crochus, ne serait-ce qu'idéologiques, avec Donald Trump? Au demeurant, ce qu'on lisait dans l'article là, à l'instant, c'est que il y a quand même un bon 40% des sympathisants du RN qui apprécient Donald Trump, semble-t-il. Ou qui relativise un minima la critique. Donc, Marine Le Pen, est-ce qu'elle va perdre de l'électorat à elle? Est-ce que ça va la pencher? Est-ce que ça va l'empêcher d'élargir? Ça, c'est possible. C'est possible que ça l'empêche d'élargir et d'aller rameuter une autre droite. Vous savez que le Rassemblement national est à la pêche en ce moment vers une autre droite qui pourrait, pour aller chercher des électeurs qui sont aujourd'hui chez les Républicains. Et le RN essaye de polisser son image. C'est notamment tout le travail que fait Jordan Bardella. D'aller chercher les milieux d'affaires, d'aller chercher les chefs d'entreprise, d'aller chercher les entrepreneurs, les machins, etc., avec un discours tendant à dire le RN est pro-business, le RN va vous aider, etc. Est-ce que ces milieux-là, qui sont quand même assez friands de questions internationales et tout, vont pas se dire, ouais, non, franchement, le RN, c'est mort, ils sont trumpistes, et Trump, c'est pas notre allié, quoi. Mais non, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous pensez que Marine Le Pen, elle va pâtir de la situation internationale? Trump, c'est l'allié des riches, non? Ah, mais pas des riches français, hein? Qu'est-ce que tu crois? Ah non, 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 non. Non, non, t'as 25% de droits de douane. Tu crois que les entreprises françaises, elles sont contentes de Trump? Ah. Si les US plongent complètement, peut-être. Marginalement, la majorité de l'électorat RN n'en a rien à faire de la politique internationale. C'est vrai que c'est pas le cœur de leur adhésion, je suis d'accord avec toi. Les Français sont quand même assez anti-USA. Oui, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais oui. Par contre, est-ce que tu penses que Trump voudra s'immiscer dans les élections présidentielles de 2027? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que Trump va faire en France la même chose que ce qu'il a fait aux États-Unis? Est-ce qu'il le fera tout aussi ouvertement ou moins? Ce sera plus discret? Est-ce que Trump va défendre le RN d'ailleurs? C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr que Trump défende le RN, hein. Il va peut-être défendre Reconquête. Éric Zemmour, I love this guy, he's amazing, great president for France. Bannon a insulté Bardella de fillette, pas assez à droite pour lui. Zemmour est libéral, là où le programme du RN est très à gauche, donc pas sûr. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas sûr que le mot gauche soit le bon mot pour désigner le programme du RN, mais le programme du RN depuis deux présidentielles est effectivement très axé sur la question du pouvoir d'achat et sur un fort interventionnisme étatique. Ça résume pas la gauche, mais ça, je vois ce que tu veux dire. Oui, bon, oui, effectivement, t'as raison. Zemmour, il est beaucoup plus libéral, agressif. Je sais pas. Bon, et inversement, est-ce que l'anti-Trumpisme va donner des ailes à la gauche? Après, c'est de poser la question de savoir si le Trumpisme allait soutenir l'extrême droite. Est-ce que la gauche peut bénéficier d'un aspect de rejet de Donald Trump, des États-Unis, de cette manière brutale et violente de faire de la politique? Est-ce qu'un électorat peut se dire, oh là, décidément l'extrême droite, c'est pas pour moi, je vote à gauche, etc. Moi, je suis comme vous, je suis pas tout à fait persuadé que ça peut créer cet effet-là, ne serait-ce que parce que parmi les personnes identifiées dans l'opinion publique comme étant capable de s'opposer à Donald Trump, il y a Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le macronisme va rester perçu par une bonne partie de l'électorat comme une alternative au trumpisme, voire même un adversaire du trumpisme. Ce qui était déjà le cas, je me souviens, en 2017-2018, hein, dans les premiers discours aux Nations Unies d'Emmanuel Macron, tu avais une opposition farouche entre Macron et Trump. Et on l'a revu là, la semaine dernière, dans le bureau ovale. Trump et Macron, c'est décidément pas la même came. Ils ne travaillent pas de la même manière, ils ne pensent pas à la relation internationale de la même manière. Et puis voilà. Donc. Le macronisme d'aujourd'hui, c'est aussi très différent de celui de 2017. Oui. Sur les questions internationales, je me paraît pas aussi évident. Mais oui, non, ce que je suis en train de dire ne vaut que pour l'international, ça ne retire rien au bilan. C'est-à-dire, il y a probablement une bonne partie des électeurs d'Emmanuel Macron qui ont voté pour lui au premier tour, hein, en 2017 et en 2022, qui se disent aujourd'hui, bon, je suis déçu par Macron dans le style et la pratique du pouvoir, je suis déçu par Macron sur les résultats. En revanche, je suis toujours avec lui sur les questions européennes et internationales. Ça, je reste aligné avec Emmanuel Macron sur l'idée que, il faut une défense européenne, il faut un saut fédéraliste, il faut. Alors, il n'a jamais utilisé le mot saut fédéraliste, mais il faut avancer en Europe et il faut probablement engager les troupes en Ukraine. Voilà. Je pense qu'une partie de l'électorat de Macron se dira ça. Alors, est-ce que ça les empêchera de voter pour Macron? Je ne sais pas. C'est Glucksmann, ça, non? Glucksmann aussi est assez bien identifié comme une personne opposée à Donald Trump, à Vladimir Poutine, à Xi Jinping. Alors après, est-ce que Glucksmann, de là à réussir à en faire une candidature à l'élection présidentielle, je suis pas convaincu. Mais en tout cas, il a du chemin à faire, quoi. Mais je suis assez d'accord avec vous sur le côté dubitatif de c'est probablement pas là-dessus que se fera la prochaine élection présidentielle. Il a pas mal du NFP contre lui quand même. Oui, et alors? Ça n'empêche pas, hein. Il n'est pas super Atlantis, Glucksmann. Bah non, on peut enfin, l'atlantisme c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est pas la même chose de défendre l'idée que la France est un allié des États-Unis quand c'est Trump le président américain ou quand c'est Biden, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai l'impression que le PCF est plutôt anti-européen actuellement. Il y a qui d'autre qui a ce discours fédéraliste européen? C'est le PCF? Le PCF, il n'a pas de discours fédéraliste. Il a toujours été, sans être eurosceptique, il a toujours été très eurocritique, le Parti communiste. Dès le début, hein, sur le caractère de marché commun, sur le néolibéralisme, sur les angles politiques, économiques et monétaires européens, le PCF a toujours été très critique, bien sûr. Bon, en tout cas, ça me terrifie de voir plus que les termes guerre, défense, réarmement, engagement plus dur sur les plateaux TV. Au bout, on parle d'hommes et de femmes qui la font cette guerre. Ben, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, la situation est assez terrible, hein. Si tu veux qu'on dise des mots un peu durs, les Ukrainiens déjà, ils vivent une situation dure et ils meurent au front depuis des années. Donald Trump qui menace d'arrêter de soutenir l'Ukraine et de lui tordre le bras pour avoir ses minerais, crée une situation dans laquelle il est possible que la France ait besoin d'engager des troupes. C'est possible. Comme la France s'est engagée au Mali, comme la France a essayé de s'engager en Syrie, mais ça n'a pas marché. Donc bon. Sauf que là, ce qui change, c'est que c'est une puissance nucléaire. Oui, enfin bon, je te rappelle que la guerre froide n'a pas empêché de puissances nucléaires de se faire la guerre, justement par proxy. L'engagement de la France au Mali contre quel intérêt commercial? Ça, j'en sais rien, je te laisse me dire. Si t'as une théorie, vas-y. Mais bon, c'est quand même le gouvernement malien qui a demandé, hein. Puis la situation de Bamako était critique à ce moment-là. Est-ce que la solution pour la gauche, ce ne serait pas de revoir ses positions sur l'Europe? Tu soulèves un sujet compliqué à gauche. Il y a un certain nombre de sujets, cher ami, sur lesquels la gauche française n'est pas unanime. Le nucléaire en fait partie. L'Europe en fait partie. C'est un sujet, effectivement, sur lequel tout le monde n'est pas tout à fait d'accord à gauche sur la stratégie. L'angle, le cap, etc. Est-ce que la solution pour l'Europe, ce ne serait pas un plus grand degré de fédéralisation? Bah, c'est une question institutionnelle, ça, c'est pas vraiment une question d'ordre politique. Enfin, tu me diras que les deux sont liés, mais oui, peut-être. Enfin, j'en sais rien. C'est une... Alors, pour le coup, c'est vraiment une question de point de vue. T'as des gens qui vont défendre l'idée que l'Europe devrait être plus fédérale. L'Europe devrait avoir un président et un gouvernement avec une politique économique. Je vous rappelle que ça veut dire qu'il n'y aura plus de politique économique en France. Hein. C'est terminé. Il n'y aura plus de débat économique en France. Il y aura une politique économique et une seule qui sera décidée au niveau européen, qui s'appliquera à tout le monde. Et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, il y a une démocratie au niveau européen quand même. Il y a une possibilité de faire valoir ses points de vue. Mais bon, c'est un peu particulier. Et puis, de toutes les manières, il y a la question de la défense aussi. Est-ce que l'Europe doit se doter de sa propre armée? Si oui, ça veut dire quoi, une armée européenne? Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est un commandement intégré? Est-ce que c'est un OTAN bis? Est-ce que... Pareil, même question, même débat. Une seule armée, mais qui parlerait quelle langue? Bon, ça n'a jamais été un problème. Hein. Regarde l'OTAN, ça n'a jamais été un problème. Est-ce que de Villepin a une chance de passer en 2027? Si on reprend la théorie du trou de souris, tout le monde a une chance de passer en 2027. Est-ce que Dominique de Villepin en particulier? Je sais pas. Pareil, hein, Dominique de Villepin, depuis 15 ans, les gens le connaissent surtout pour ses prises de position en matière internationale. Qu'est-ce que Dominique de Villepin pense de la ruralité, de la santé, des services publics, des impôts, etc. Personne n'en sait rien. Donc c'est pas, c'est toujours pareil, hein, c'est facile de se faire une bonne cote de popularité en disant des choses pas débiles. Sur un sujet en particulier qu'on maîtrise très bien, c'en est une autre de faire une campagne présidentielle. C'est incroyable la hype à gauche autour de Villepin, d'où ça sort, qui finance ça? Putain, le degré de paranoïa. Tu crois qu'il y a des gens? Tu crois qu'il y a des gens qui sont mis dans un petit bureau comme ça, ils se sont dit, on va financer le retour en grâce à gauche de Dominique de Villepin. C'est comme le retour de Hollande. Ah bah pour le coup François Hollande il a été élu député. Après il se démerde le mec, hein. On sait pas si Hollande va jouer quelque chose à l'occasion du congrès, la présidence du groupe, je sais pas, etc. Voilà, il se démerde le mec, mais il a commencé par se faire élire. Dominique de Villepin n'a jamais été élu de sa vie, je vous rappelle. Jamais. Ni député, ni maire, ni rien. Macron non plus. C'est vrai, tu as raison. Macron non plus. Macron, la première élection de sa vie, c'était président de la République. Il a gagné. Pas mal. Pas mal, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est impressionnant en tout cas. Du coup, non mais du coup c'est intéressant parce que du coup effectivement, la victoire de France, la victoire d'Emmanuel Macron sortie de nulle part donne de l'intérêt et suscite des vocations chez d'autres personnes qui se disent après tout si Macron l'a fait, pourquoi pas moi? Qui sait? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un Zemmour. Et c'est comme ça qu'on se retrouvera peut-être avec un Villepin. Ou un Juan Branco. Ça, c'est pas nécessaire, mais voilà. Macron n'a jamais perdu une élection. Macron n'a jamais perdu une élection. Macron, il a 100% de win rate. Ouais, c'est vrai. De Gaulle aussi n'avait jamais été élu. Oui, alors De Gaulle, il a dirigé la résistance. C'est bon. Alors effectivement, formellement, c'était pas une élection, mais quand même. Je veux dire. Bon, voilà. C'est contexte de guerre, tout ça, forces combattantes, etc. Après, en 58, il a été élu. Il a été élu, hein, président de la République. D'abord par les grands électeurs, puis en 62 par les Français. Lucie Castet n'a jamais été élue. Elle pourrait devenir présidente de la République. Marine Tondelier. Marine Tondelier, elle a le mérite de s'être présentée à des élections, et pas n'importe lesquelles, elle s'est présentée à Hénin-Beaumont contre Marine Le Pen. Donc, Marine Tondelier, elle a. Disons qu'elle a la défaite honorable à gauche. Comme JLM. Jean-Luc Mélenchon aussi a perdu face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, ouais. Ouais. Puis après, il a laissé tomber Hénin-Beaumont, il est allé à Marseille. Merci Mélenchon pour l'idée. Les gars. Je sais que vous aimez beaucoup Jean-Luc, mais Marine Tondelier, elle habite à Hénin-Beaumont. Peut-être la différence avec Jean-Luc. Si je puis me permettre. Pas je. Voilà. Après, bon. Ils en ratent pas une. Ah non, c'est assez spectaculaire. La piste Ruffin s'est éteinte. A-t-elle déjà été allumée? La piste Ruffin, je veux bien, mais. Entre les écuries et les ambitions, à gauche, il y a ce qu'il faut, hein. Moi je dis, non mais bah, après bon, c'est une idée, c'est voilà, je verse ça à la discussion commune, on verra. On pourrait imaginer un système dans lequel ce serait les gens de gauche qui détermineraient qui serait le candidat avec un système de grandes boîtes dans lesquelles ils pourraient mettre des petits papiers et sur le petit papier ils écrivent ou ils cochent le nom. Voilà, je sais pas, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Je me dis, voilà, on peut dire une espèce de système comme ça où celui qui a le plus de petits papiers serait le ou la candidate commune de tous ceux qui ont voté à la primaire, hein, pas forcément de tous les partis, les autres font ce qu'ils veulent. Voilà, j'en sais rien. Il y en a qui l'ont fait par le passé et pour qui ça a cartonné. Il y en a d'autres qui l'ont fait pour qui ça n'a pas du tout cartonné. Pourquoi faire une primaire? Eh bah pour désigner le ou la candidate commune des gens qui ont participé à la primaire. Enfin, les autres font ce qu'ils veulent, hein. Bon, ils sont libres de te présenter quand même, hein. Une primaire, quand ça marche très 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 bien. Quand ça marche pas, c'est un flop. C'est rarement un flop qui pèse sur la candidature, mais disons que ça n'accélère rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a marché quand? Mais. La seule fois qu'une personne de gauche a été élue présidente de la République au XXIe siècle en France, c'était grâce à une primaire. C'était 2011 et c'était François Hollande. Bon, bah c'est. Bon, bah donc là, ça a cartonné, ça, d'accord, ok, très bien, c'est vu. Après, il y en a d'autres où ça s'est moins bien passé. Ce stream est une boucle infinie. Ah ouais, non, je sais, on revient dessus. On revient dessus sur la discussion des primaires, je sais que ça excite beaucoup. Mais voilà quoi. Dans un cours sans fin. Ouais, c'est ça, on en revient. Hollande peut-il espérer revenir au pouvoir? L'espérer tant qu'il veut. Tant qu'il veut, le soir pour s'endormir, François Hollande espère, sans doute, revenir au pouvoir un jour. Est-ce qu'il peut raisonnablement se retrouver en situation de retourner au pouvoir? Ça paraît improbable. Ça paraît improbable. Mais, virgule, des gens qui font des choses improbables en France, on l'a déjà vu. Hashtag François Hollande 2011. Hashtag Jean-Luc. Non, Emmanuel Macron. 2016. Ségolène Royal 2006. C'est pas la première fois, ça c'est déjà arrivé plusieurs fois en France que des personnes fassent des percées très impressionnantes, voire réalisent des scores de victoire, alors que personne ne les attendait spécifiquement, eux, 2 ans avant. Jean-Luc Mélenchon, 2017, son score était énorme. C'était un très beau score. Comme quoi aux F des primaires. Ben non. Parce que Ségolène Royal, comme François Hollande, ont gagné des primaires. Alors Ségolène Royal n'a pas gagné la présidentielle. Elle a emmené la gauche au second tour. Après 2002, c'était... Bon, bref. C'était important. François Hollande, lui, il a remporté l'élection présidentielle à l'issue d'une primaire. Des news sur la proportionnelle? Non, je n'ai aucune nouvelle sur le scrutin proportionnel. Je ne sais pas ce que va faire Bayrou. J'ai pas d'infos, je ne sais pas. La primaire a tendance à ramener les idées choisies vers quelque chose de consensuel, ce qui est contradictoire avec une vision socialiste de la politique. Alors, avec ta vision socialiste peut-être, mais tu m'accorderas que Donald Trump a remporté l'élection primaire du Parti républicain sur une ligne bien plus radicale que tous les autres. Benoît Hamon, en 2017, c'était pas le mec le plus consensuel du Parti socialiste, hein, je te rappelle. Donc, voilà. Fillon, est-ce que Fillon était consensuel chez les Républicains? Bon, on peut en discuter. Voilà quoi. Primaire écolo, Sandrine, deuxième et proche de la victoire. Ouais, Sandrine Rousseau. Tiens, pareil, j'aurais dû la rajouter dans la liste des personnes que personne n'attendait particulièrement. Elle a quand même fait le second tour de son élection primaire dans son parti alors que tout le monde attendait Éric Piolle. Ben non, c'est Sandrine Rousseau, sur une ligne bien plus radicale que Piolle, qui lui est passé devant. Bon, au final, c'est Jadot qui a gagné, mais quand même. Donc non, vraiment, le coup de les primaires, ça désigne que des personnes molles. Non, enfin, c'est pas oui ou non, c'est juste qu'il y a tellement de contre-exemples. Bah si, admets-le. Sinon, tu vas faire quoi? Non, non, mais si tu veux, si tu trouves que Donald Trump est trop mou, vas-y, hein. C'est ton point de vue, c'est pas le mien. Donc non, enfin, je sais qu'on va continuer à l'avoir cette discussion, les copains. On va continuer à avoir cette discussion dans l'année qui vient, parce que vous vous doutez bien comme moi que la question de la primaire à gauche va continuer à revenir au fur et à mesure. Voilà. Donc moi, je vous redis ce que j'ai toujours dit, c'est que la primaire, ça n'existe pas. Voilà, la primaire, ça n'existe pas. Il y a des primaires qui sont faites dans des contextes particuliers, avec des dynamique particulière et qui présente des résultats différents. Voilà. Donc la primaire, c'est génial, ou la primaire, c'est de la merde, sont deux idées que je trouve à chier. Enfin, bon, vous pouvez le défendre si vous voulez, mais bon, on parle tellement de choses différentes, ça dépend tellement des circonstances, des conséquences, des dynamiques et tout, que bon, bah faut voir. Il y a peut-être des primaires qui, selon un alignement de planètes particulier, peut donner quelque chose. Et à l'inverse, il y a des très très belles primaires faites avec beaucoup de bonne volonté qui, au final, servent pas à grand-chose et marchent pas, quoi. Et on a tout à fait le droit de ne pas défendre la primaire. Je suis pas en train de vous dire que la primaire, c'est génial à tous les coups. Il y a des très très bonnes raisons de ne pas vouloir participer à une primaire, hein. On peut tout à fait se présenter hors primaire. On peut présenter sa candidature à l'élection présidentielle. On n'est pas obligé de s'inscrire dans une dynamique de primaire, etc. Droit. Si tu veux. Quand tu fais de la politique, tu te permets pas d'attendre un alignement de planètes. C'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son premier meeting de fondation de En Marche pour expliquer pourquoi il se présentait à la présidentielle. Je sais que j'ai peu de chance, mais il faut pas attendre que la chance tourne pour se présenter, il faut se présenter avant. Voilà. Ça dépend des engagements et du respect des autres candidats au terme de la primaire, celle de Hamon où il a dû renier, où ils ont tous renié et fui avec Macron une fois qu'ils avaient perdu. Alors non, déjà, ils n'ont pas tous fui. Deux, je suis pas sûr que si Manuel Valls et François de Rugy avaient fait campagne pour Benoît Hamon aurait fait un meilleur score. Donc vous donnez beaucoup trop d'importance à Manuel Valls, à gauche. J'essaie de pas trop le minimiser non plus, mais enfin je leur mets à une place qui est quand même. Voilà. Et ensuite, le problème de la primaire de 2017, enfin celle de 2016, la primaire à gauche, c'est que c'est une primaire à laquelle on a demandé de trancher une question qui n'a pas été tranchée par-delà la primaire, c'est-à-dire la question de la ligne à gauche. En fait, on a demandé aux sympathisants du Parti socialiste de dire s'ils préféraient qu'on aille dans la direction du hollandisme ou si on rompt avec le hollandisme et qu'on retourne à gauche. Je vais le dire comme ça. Du coup, cette primaire n'en était pas une. Cette primaire était un congrès. Et à l'issue de son congrès, Manuel Valls et François de Rugy ont fait exactement ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon 10 ans plus tôt, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le Parti socialiste. Pour la même raison que Jean-Luc, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, ah tiens, je vais le redire parce que ça, je sais que ça va vous choquer. Manuel Valls a fait exactement la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Pour la même raison. C'est-à-dire qu'il a quitté le Parti socialiste à l'issue d'un vote des adhérents avec lequel il était en désaccord radical. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008 au Congrès de Reims quand Jean-Luc s'est barré. Jean-Luc a tiré les conclusions d'un vote des militants PS en disant, bon, bah si c'est ça, désolé, mais ce sera sans moi. Et il est parti. C'est exactement ce qu'a fait Manuel Valls en 2016. Il a tiré les conclusions d'un vote, il a regardé, il a fait bon bah si c'est comme ça, ce sera sans moi, et il est parti. Et pour l'un comme pour l'autre, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Vous avez le droit de quitter un parti politique. C'est pas une secte, enfin ça dépend lesquels, c'est pas une famille, c'est pas je sais pas quoi, etc. Un parti politique, dès lors qu'il décide de prendre une direction qui n'est pas la vôtre et avec laquelle vous avez des désaccords profonds, vous avez le droit de vous barrer. C'est-à-dire, bah bon, bah, écoutez, moi, merci pour tout, je vais m'arrêter là, je suis plus d'accord, je suis plus aligné avec le parti, j'ai plus envie d'aller dans cette direction-là, de me battre et tout, je vais faire autre chose, je vais partir, et alors, après, tu pars et tu fais ce que tu veux. Chacun, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Valls, ont eu des trajectoires différentes et tout, mais tu vas faire autre chose. Tu peux créer un nouveau parti, tu peux rejoindre un nouveau parti, tu peux rejoindre ce que tu veux, un collectif et tout, enfin voilà. Oui, mais Valls est parti parce que c'était trop à gauche pour lui, et Mélenchon, c'est l'inverse. Oui, exactement. En 2008, le congrès de Reims, c'était le congrès sur lequel Jean-Luc Mélenchon attendait que le parti politique tranche la question de l'Europe après la victoire du non en 2005, au moment du traité constitutionnel. En gros, je vous refais la période. Hein. 2005, le Parti socialiste se déchire en deux. Okay? Vous avez d'un côté le camp du oui avec François Hollande et d'autres, Ségolène Royal, etc. Et de l'autre côté, vous avez le camp du non avec Laurent Fabius, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuelli, etc. Machin. Okay? Donc le parti est déchiré en deux. Les Français votent non en 2005 pour le traité constitutionnel européen. Le PS est hyper emmerdé. Le PS est hyper emmerdé, ils font bon, ben on fait quoi maintenant? T'as les gens de l'aile gauche du PS, notamment Jean-Luc Mélenchon et d'autres, qui disent bon, ben on a gagné. Donc maintenant, c'est nous qui devons prendre les rênes du parti. Les autres qui disent non, mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche, c'est le congrès qui décide de qui a les rênes du parti, donc machin. Sauf que là, on peut pas faire de congrès, on a une présidentielle qui arrive, la présidentielle de 2007, je vous rappelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on est déchiré en deux, le parti est déchiré, on ne peut pas présenter de candidat commun décidé par le parti, qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait une primaire? Ah tiens, la bonne idée, on va faire une primaire. Primaire qui sera l'occasion de trancher. Et donc on se retrouve dans une élection primaire, dans laquelle vous avez Laurent Fabius qui se présente en 2006, Dominique Strauss-Kahn qui se présente. Attends, c'était DSK? En 2007, je crois que c'était DSK déjà en 2007. Oui, c'était DSK qui se présente en 2007. Et Ségolène Royal. La troisième, l'outsideuse de l'élection, c'était Ségolène Royal. Donc, on demande aux électeurs, aux sympathisants de gauche de venir voter pour désigner leur candidat, etc. Et surprise, c'est Ségolène Royal qui gagne. Ségolène Royal est donc investie candidate à l'élection présidentielle de 2007. Vous connaissez la suite, elle arrive au second tour, mais elle perd face à Nicolas Sarkozy. Et là, enfin, on organise un congrès pour trancher cette fucking question qu'on n'a pas tranchée depuis 2005, où le parti est toujours déchiré en deux. Hein. Il y a les gens du non, les gens du oui, les motions, etc. C'est toujours le bordel. On arrive en 2008, et Jean-Luc Mélenchon se frotte en se disant, on va enfin gagner, le camp du non va enfin gagner et prendre la main sur le Parti socialiste, donner un coup de barre à gauche, etc. Machin. Bon, bah, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque les adhérents du Parti socialiste ne votent pas du tout massivement pour la motion défendue par Jean-Luc Mélenchon, ils votent et ils placent au second tour Martine Aubry et Ségolène Royal. Et je crois même, de mémoire, c'est avant même le second tour que Ségolène Royal, que non, 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 que Jean-Luc Mélenchon dit « je me casse ». Voilà, je me casse. Il dit « bon bah, le Parti socialiste a décidé définitivement de s'enfermer dans le camp du « oui » à la Constitution européenne, alors que c'est le non qui a gagné et que moi j'ai fait campagne pour le non, etc. Jean-Luc Mélenchon, il dit bon bah puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il se casse. Et à l'époque, tout le monde en parlait. Non, je déconne, c'est faux. Tout le monde en avait rien à branler. Vraiment, le départ de Jean-Luc Mélenchon en 2008, tout le monde s'en branle. Hein. C'est pas du tout un départ spectaculaire. Il n'est pas particulièrement interviewé par la télé, etc. Il y a quelques reportages à l'époque un peu locaux, mais 2008. Bon bah salut Jean-Luc, hein, c'est dommage, mais ciao bye, hein. On verra ce qu'on fait de la Fédération de l'Essonne, quoi. Bon, bah voilà. Et donc Jean-Luc Mélenchon s'est cassé, et comme vous le savez, il a créé le parti de gauche, le PG, il a réussi à se faire investir par le Parti communiste en 2012, dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque le Front de gauche. Non seulement il n'a pas gagné l'élection présidentielle, mais en plus c'est François Hollande qui a remporté l'élection présidentielle. Qui était le pire du pire du pire imaginable pour Jean-Luc Mélenchon, mais c'est comme ça. Disons que la gauche a tranché, et voilà. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. La France insoumise qui arrivera plus tard, gagnera des scores non négligeables aux élections européennes, à la faveur de la déception de l'électorat de gauche sur le quinquennat de François Hollande. Et donc on se retrouve en 2016, François Hollande ne se représente pas à sa propre succession, le Parti Socialiste décide d'organiser une élection primaire pour désigner son candidat à la suite de François Hollande, et là on se retrouve dans une situation où l'élection primaire se retrouve, comme je vous l'expliquais, à devoir trancher la ligne du Parti Socialiste. Est-ce que le PS est fier du quinquennat de François Hollande et veut continuer dans cette direction? Ou est-ce que le Parti Socialiste regrette le quinquennat de François Hollande, en tout cas une partie, et décide de changer de cap? Et c'est ça, cette question qui a dû être tranchée. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que, à l'issue de l'élection primaire, c'est Benoît Hamon qui est investi. Benoît Hamon est un frondeur. Benoît Hamon est opposé à la ligne du Parti Socialiste de François Hollande. Et donc, logiquement, Manuel Valls se casse. Exactement de la même manière que Jean-Luc Mélenchon 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt. Pas 10 ans, 8 ans. Pour la même raison. Puisque c'est comme ça, ce sera sans moi. Non, je ne vais pas soutenir Benoît Hamon à l'élection présidentielle. Ça n'avait aucun sens, ça n'avait pas de perspective. C'est absurde. Donc voilà. Il avait promis de soutenir le vainqueur. Oui. On la connaît. Hein. Je vois pas quel est l'intérêt de forcer quelqu'un à soutenir par avance un adversaire au motif que... Vraiment, hein, je... Me faites pas croire que si Manuel Valls avait remporté la primaire de 2016, vous seriez là dans mon chat à me dire « Benoît Hamon avait promis de soutenir Manuel Valls, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?» Les gars, c'est bon. Évidemment que Benoît Hamon, il n'aurait pas soutenu Manuel Valls. Enfin, faut être cohérent. Politiquement, tu peux pas demander aux gens... Non. Benoît Hamon, il serait barré. Il aurait évidemment pas soutenu Manuel Valls. Les primaires, c'est de la merde, c'est QFD. Si tu veux. Ça a l'air de te faire plaisir, si tu veux. On sait jamais si Benoît Hamon allait pas soutenir Manuel Valls. Ouais. Non mais enfin je ok Jean-Luc Mélenchon, il avait pas promis de continuer à défendre le Parti Socialiste? Pourquoi il l'a quitté? Pourquoi vous êtes en colère comme ça contre Jean-Luc Mélenchon? Vous l'accusez de trahison, c'est ça? C'est pas bien. Pourquoi il a pas soutenu Martine Aubry alors qu'elle a remporté le congrès? C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Non, mais c'est bon alors. Non, autant pour moi, pardon. Non, mais c'est pas pareil. Pourquoi tu déplaces le sujet? Non, je déplace pas, pardon. Non, puis en plus, j'ai déplacé pas au bon endroit, visiblement, donc non. Donc revenons sur cette trahison de Manuel Valls. Oui. Non, ça c'est important. On touche pas à ce point sensible. Non. Quelle est la position de la gauche sur comment réagir à Trump? Je suis pas sûr que la gauche ait une position unanime sur ce sujet. Quel est le parti pris de Faure sur le quinquennat Hollande? Bah, Olivier Faure fait partie des gens critiques du quinquennat de François Hollande. Olivier Faure, il a pris le Parti socialiste en 2017 sur les ruines du quinquennat de François Hollande. Et l'un des premiers textes d'orientation qui a été voté par le Conseil national sous l'égide d'Olivier Faure, c'était un texte, je m'en souviens, très critique du quinquennat de François Hollande, qui mettait en avant toutes les très bonnes choses selon le PS qui a été fait par le quinquennat, mais qui aussi parlait de la politique économique, du CICE, etc. Non, non, François Hollande, Olivier Faure, pardon, c'est un anti-Hollande. Olivier Faure, il était parmi les frondeurs sous Hollande. Il était proche des frondeurs, c'était pas le plus vocal, mais ouais, Olivier Faure, il était plutôt frondeur, ouais. Donc non, non, c'est vrai que Olivier Faure, il a repris le Parti socialiste dans une situation extrêmement difficile, suite au quinquennat de François Hollande, suite aux victoires successives de la droite et surtout à la victoire spectaculaire des macronistes dans les deux élections de 2017. Et puis après, il a fallu redresser la barre. Alors, ça a commencé avec les élections européennes de mémoire, où là, Olivier Faure a décidé de se rallier à Place Publique et de soutenir la candidature de Glucksmann. Il y a eu une liste commune à ce moment-là, à un moment où le PS était vraiment pas très fort. Il a commencé à reprendre des couleurs parce que le score de Glucksmann n'était pas dégueulasse. Ensuite, en gros, le PS s'est assez bien démerdé dans toutes les élections intermédiaires, sauf à la présidentielle. En fait, le PS et la France insoumise sont un peu en négatif l'un de l'autre. C'est-à-dire que le PS s'en sort bien aux élections intermédiaires, aux municipales, aux régionales, aux européennes, aux sénatoriales évidemment, par conséquent. Mais aux élections présidentielles, par contre, le PS vraiment, c'était 6% avec Benoît Hamon et c'était 2% avec Anne Hidalgo en 2022. Voilà. Donc non, c'est assez intéressant pour le Parti socialiste qui continue, alors qui va de mieux en mieux quand même, qui progresse, d'autant que bon bah comme vous le savez, puisque vous êtes abonné à ma chaîne et vous avez bien raison, en 2022, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une alliance à gauche qui a été formée pour les élections législatives après la présidentielle, qui a permis au PS de retrouver des couleurs à l'Assemblée nationale, ce qui lui manquait quand même un peu. Et ensuite, ça a recontinué en 2024 avec le NFP, qui n'était pas franchement attendu par tout le monde, mais qui est quand même venu sécuriser les circonscriptions et sauver les sièges, y compris pour le PS. Voilà quoi. Le PS progresse, on a hâte de voir aux prochaines élections. Au municipal? Ça risque de plutôt bien se passer pour le Parti socialiste, hein. On va voir. On va voir. Mais enfin, le PS est quand même très très bien implanté. Ils ont gagné des villes aux dernières. Ils sont en bonne position d'en gagner d'autres potentiellement. Non, c'est plutôt municipal en général. Ça se passe plutôt bien pour le PS, hein. On verra. J'ai hâte. Bah, si tu, enfin, je sais pas. Tu veux comparer avec qui d'autre? On va pas comparer avec LFI, ce serait pas très fair en termes d'équité. Comparer avec LR, éventuellement, en termes d'assise territoriale. Même à Paris? Bah à Paris, c'est compliqué parce que le gouvernement a l'intention de changer les modalités d'élection pour passer un suffrage universel direct sur le maire. Ce que je trouve débile, mais bref. Les Verts et LFI, je pense. Bah, si tu veux compérer le Parti Socialiste avec la France Insoumise au niveau municipal, je suis désolé, mais il y a no match. Hein. Genre, vraiment, les mairies PS, ça se compte en centaines. Les mairies LFI, ça se compte en zéro. Ça peut changer. Ah, il y en a une. Fâches-tu-Mesnil. Félicitations. C'est très spectaculaire. Ben on verra. Elle a été gagnée en 2020 par un candidat LFI. Il y en a qui sont apparentés, pas forcément étiquetés. Bah, en l'occurrence, les dernières élections municipales, la France Insoumise a choisi une stratégie d'enjambement. Alors déjà, c'était le discours de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui était de dire les municipales, c'est pas notre guerre. Nous, la France Insoumise, on est là pour enjamber cette élection. Sous-entendu, on se dirige vers la prochaine élection qui, pour nous, est importante, ce qui est la présidentielle. La France Insoumise est un parti présidentiel. Donc, on focus sur 2022. 2020, on n'en fait pas des caisses. On va avoir une stratégie de soutien à des listes citoyennes. Rappelez-vous, on était 2 ans après le mouvement des Gilets jaunes. La France Insoumise, qui à l'époque était tout à fait jaune fluo, disait, on va soutenir des listes citoyennes au niveau local, dans plein de mairies, à qui on apportera notre soutien. Mais on ne va pas nous présenter des listes partout, etc. Bon, comme vous le savez, les listes citoyennes, ça n'a pas marché. Donc la France Insoumise, du coup, non plus, ça n'a pas marché. Et voilà. Ça commence à me fatiguer les partis. Est-ce qu'on peut imaginer un monde politique sans partis? Bah ouais, comme je viens de te le dire, les listes citoyennes aux élections municipales. Après, si les gens votent pas pour ça, je suis désolé, hein, je suis absolument navré. Mais voilà. Pourquoi les listes citoyennes, ça n'a pas marché, pas de volontaires? Parce que les électeurs n'ont pas voulu soutenir des listes citoyennes. Les électeurs qui sont allés voter aux élections municipales, ils ont voté pour des listes présentées par des partis politiques. Les listes citoyennes, ça n'a pas très bien marché. Même à l'époque de la monarchie, il y avait des factions, donc des partis informels. Autrement dit, c'est dans la nature humaine de fonctionner comme ça. Ah oui, moi effectivement, je comprends la critique du monde politique, je comprends la critique du partisanisme, je comprends la critique des partis qui sont absolument détestés par les Français. La cote de popularité des politiques est proche de zéro. Donc je connais tout ça. Je suis pour autant plutôt un défenseur du fait partisan, parce que je pense que c'est effectivement pas une mauvaise chose en soi dans une démocratie que les partisans d'une même ligne politique se réunissent. Dans ce qu'on appelle un parti politique, parce que je suis désolé, il n'y a pas de meilleur moyen d'appeler ça. C'est un parti politique, c'est un parti pris politique. Donc voilà, bon, bah les mecs se regroupent parce qu'ils sont d'accord entre eux, et puis après ils vont présenter des candidats aux élections. Et puis les citoyens sont juges de paix. Les citoyens sont juges de paix, les citoyens votent, puis ils décident. Et les municipales, c'est les élections de baronnies de longue implantation, genre subvention à l'association locale des chasseurs de la part du maire pour inciter à voter pour monsieur le maire. Oui, alors, la critique que tu formules est valable pour absolument toutes les élections. C'est-à-dire, dès lors que tu mènes une politique publique favorable aux gens, les gens ont envie de voter pour toi. Donc, de là à dire que ce n'est que de la corruption ou de l'achat de voix, je sais pas. Et puis par ailleurs, ça n'empêche pas les revirements de situation. Il y a quand même beaucoup de villes où il y a des revirements de politique. Donc, voilà. Il faudrait des mandats impératifs et révocatoires. D'accord. Mais ça veut dire quoi, impératif, pour toi? Tu t'es déjà présenté sur une liste? Moi, non. Non, non, je me suis jamais présenté sur une liste. Pas de crainte qu'il n'y ait pas assez de personnes à se présenter, qu'il manque des maires, ou qu'il y ait des maires imprévisibles ou pas sérieux. Si, 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 moi je suis d'accord avec toi. Hein. On n'a pas assez de candidats aux élections municipales, notamment dans les petites villes. Hein. Même pour être délégué de classe, non, 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 même pas. Être un élu municipal, c'est un sacerdoce, les astreintes en mairie, le week-end, les CM, les commissions, etc., etc. Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un décalage stratosphérique entre la réalité du mandat d'élu local et l'idée que s'en fait une partie de l'opinion publique un peu complotiste et et anti-élite. C'est vraiment, 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 vraiment impressionnant le décalage qu'il y a entre l'idée qu'on peut s'en faire et la réalité de ce que ça représente pour les gens qui le vivent. Et donc, oui, il y a des gens qui pensent, souvent parce qu'ils sont mal informés, que les élus sont tous des pourris, qu'ils n'agissent que dans leur intérêt personnel, qu'ils brassent énormément d'argent, qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, y compris en liquide, dans les bureaux de la mairie, etc., machin. Bon, donc c'est l'idée que tu t'en fais un peu, et puis tu rencontres, le maire adjoint. Tu te rends compte que le mec, il a les cernes creusées parce qu'il n'a pas dormi depuis 4 jours, qu'il enchaîne réunion sur réunion sur réunion, que sa boîte mail, elle a 500 mails de retard, que la quantité de travail est absolument astronomique, et que l'argent qu'il touche à la fin du mois est ridicule, en fait. Enfin, vraiment. Et qu'il gagne un peu plus d'un SMIC. Tu dis, ah oui, d'accord. Oui, donc en fait, c'est d'accord. Donc, c'est vraiment c'est spectaculaire. En plus, moi, j'ai le plaisir d'avoir bossé en mairie, donc je vois un peu à quoi ça ressemble. Et je vois la quantité de travail, de stress, de complexité, etc., que ça représente pour des gens qui se donnent à corps perdu dans un mandat dans lequel ils croient parce que ça a du parce que c'est porteur de sens. Et je me dis, mais putain, on est quand même très très loin de l'idée qu'on s'en fait, quoi. C'est fou. Et je ne suis pas là, attention, ce que je suis en train de vous dire n'a pas vocation à déclencher chez vous de la pitié, une espèce de mansuétude ou une compassion avec ces pauvres politiques qui en chient, etc. Non, c'est pas ce que j'essaie de faire. Ces gens-là l'ont bien voulu, déjà. Ces gens-là l'ont bien voulu, ils l'ont même souhaité pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux. Donc voilà, et puis par ailleurs, il y en a probablement un paquet d'entre eux. Qui mènent des politiques avec lesquelles on est en désaccord. Je suis en désaccord, vous aussi sans doute, etc. Il y a peut-être des gens qui s'arrachent la gueule au boulot et se tabassent au boulot pour mener une politique avec laquelle moi je suis en désaccord total. Donc eux, j'ai pas du tout envie d'avoir de compassion pour eux. Je suis désolé, mon chéri, si t'as pas dormi depuis 4 jours. Mais ce que tu fais, moi je valide pas, je suis pas pour, etc. D'ailleurs, je voterai contre toi à la prochaine élection, tu vois. Faudrait inventer un jeu de maire simulator et obliger tout le monde à au moins jouer une partie. Me souviens quand je bossais en mairie, alors je ne l'ai pas fait moi, mais on m'a dit que pour les débutants, un test, pas de bizutage, mais presque, qui était assez intéressant à faire, c'est tu te mets à l'accueil de la mairie pendant une journée. Juste à l'accueil. Tu vas avec les agents d'accueil à l'entrée de la mairie et tu vas voir les gens qui se présentent à la mairie. Et tu vas déjà comprendre quelque chose, c'est que pas grand monde ne sait ce que c'est qu'une mairie et à quoi ça sert. T'es un guichet ouvert et les gens vont venir pour te parler de problèmes hyper divers, très différents les uns des autres. Faut faire les autres postes pour se rendre compte. Ouais, mais je trouve que l'accueil de la mairie est un poste très intéressant. L'accueil de la mairie, voilà, il y a des gens qui viennent les uns après les autres et qui, d'ailleurs, il y en a, ils viennent pour des problèmes privés, perso, ou pour des problèmes qui concernent des entreprises, tu vois, des mecs qui viennent pour un problème SFR. On est désolé, mais en fait, c'est votre fournisseur de ligne téléphonique, c'est avec lui qu'il faut que vous voyez. Ah oui, mais vous pouvez rien faire. Non, non, on peut rien faire, désolé. T'as des gens qui viennent parce qu'ils savent pas la différence entre la mairie, la région, la présidence de la République, l'Europe, etc. Tu vois, et qui viennent juste te parler de leurs problèmes en disant, j'aurais besoin de ça, qu'est-ce que je peux faire? T'as des gens qui viennent parce que pour eux, la police et la mairie, c'est la même chose. Donc ils viennent en disant, oui, voilà, je viens vous voir parce que j'ai été volé. Il faut leur expliquer qu'il faut aller au commissariat, etc. Enfin, bon, bah voilà, c'est hyper réel, c'est du quotidien. C'est du quotidien de la vie des gens, des problèmes. Alors, je vous passe évidemment les personnes qui ont trop bu, les personnes qui sont en état sous substance de toute évidence, les personnes agressives. Donc il y a des personnels de sécurité qui sont là à l'entrée des mairies. Voilà, hein, c'est absolument passionnant. Est-ce qu'Internet n'a pas permis un peu de désengorger les mairies? Pas tant que ça en réalité. Un truc qu'il faut jamais oublier, les gars, c'est que vous et moi, on est un peu des gens habitués d'Internet. Donc nous, on a le clic facile. Il y a quand même énormément de gens dans ce pays qui n'ont pas du tout notre habileté à aller sur Internet pour quand ils ont un problème. Donc venir à la mairie avec ton papier parce que tu as reçu un papier et tu sais pas ce que c'est un truc que font énormément de gens. Des personnes isolées, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes différentes de vous et moi. Donc voilà, il y a une vraie fracture numérique et voilà. Pour travailler en banque, je confirme. Ah bah oui, en banque c'est pareil. Est-ce qu'il y a toujours, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en banque, est-ce qu'il y a encore les personnes âgées qui viennent retirer leur retraite en liquide parce qu'elles n'ont pas confiance dans la banque et elles veulent pas de carte bleue? Il paraît qu'à une époque ça existait, il y avait des vrais problèmes à certaines agences bancaires où il y avait des files d'attente de vieux qui repartaient tous avec du cash Et du coup, la police, ils étaient en mode, mais putain, mais au secours, ils vont tous se faire dépouiller. Donc, ils envoyaient des gendarmes le jour de la versement de la retraite. Ils envoyaient des gendarmes devant les banques pour essayer d'organiser un. Enfin, dire aux vieux de bien cacher ça, de pas se balader. C'est vraiment le truc. Bon, bah voilà, ça existe. Ça existe encore aujourd'hui, semble-t-il, d'après ce que vous me dites dans le chat. Ouais, voilà. Des gens, des personnes âgées qui ont connu une époque que vous et moi on n'a pas connue, et ils n'ont pas confiance dans la banque, ils n'ont pas confiance dans la carte bleue, donc ils vont retirer leur retraite en liquide. Et vous voyez, je vous parlais des personnes qui viennent à l'accueil de la mairie. Je vous ai présenté des trucs un peu généralistes, mais il y a aussi des gens qui viennent à l'accueil de la mairie. Qui te disent bonjour, j'ai pas mangé depuis 4 jours, j'en peux plus, mon bébé a plus de lait, je sais pas quoi faire. Et ben c'est pas facile en fait, enfin, ça dépend de la mairie, ça dépend de comment c'est agencé, etc. Mais tu peux avoir parfois des gens au centre communal d'action sociale qui peuvent agir rapidement, tu peux faire un point avec une personne assistante sociale par exemple. Donc ouais, non, c'est pas évident, hein. Mais j'ai une dernière anecdote et après je m'arrête, mais c'était un directeur de cabinet d'une mairie qui m'avait raconté ça. Une anecdote parmi les milliards d'anecdotes que tu as racontées quand tu bosses en mairie. Mais lui, il était jeune directeur de cabinet, diplômé, tout ça, tout ça. Et un jour, il était d'astreinte à la mairie. Je sais pas s'il était d'astreinte ou s'il finissait tard. Mais en gros, les agents de sécurité lui demandent de descendre parce qu'il y a un problème et tout. Donc, il descend de son bureau. Il était 1 heure ou 2 du matin. Et il tombe sur un groupe de SDF. Un groupe de SDF qui sont là, qui sont très agités, très en colère, etc. Et il essaye de comprendre la situation et il s'approche d'un des SDF qui est un peu plus, qui a une voix qui porte plus et qui a l'air d'avoir autorité sur les autres. Il lui dit, mais c'est quoi le problème? Je suis le directeur de cabinet du maire, etc. C'est quoi le problème? Et le SDF se calme un peu et lui dit, en fait, on vient du bois, machin, on habite, on est les SDF qui habitent dans le bois de trucs. Et on savait effectivement qu'il y avait quelques cabanes dans les arbres, etc. Des SDF habitent là. Bon. Et le mec dit, d'accord, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bah, en fait, on vient vous voir parce que la police nous a expulsés. Là, il y a 1 heure et demie, 2 heures. La police nous a expulsés. Et il dit, d'accord, j'étais pas au courant, il y a eu une opération, un nettoyage, je sais pas, d'accord, et alors Et en fait, le gars commence à. Le SDF qui parle au directeur de cabinet commence à avoir les larmes qui lui montent aux yeux. Et il lui dit, en fait, les flics, ils nous ont expulsés, ils nous ont poussés violemment, etc. Mais ils ont aussi détruit nos cabanes. Et moi, dans ma cabane, il y avait un recueil photo. C'était un calepin que je gardais toujours avec moi, dans lequel il y a les seules photos que j'ai de ma fille. Fille dont j'ai pas de nouvelles depuis des années. Et j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Je sais pas ce que les flics en ont fait, mais il faut que vous compreniez que si demain j'ai pas ce recueil photo, moi je mets fin à ma vie. Et tu comprenais dans la manière qu'avait te parlé le mec qu'il était extrêmement sérieux, que vraiment ça ne rigole pas. Et donc le directeur de cabinet dit. Écoutez, je peux rien vous promettre. Je vais faire le point avec la police. J'étais pas au courant de cette opération. Je vous propose qu'on se retrouve demain, effectivement, que vous veniez et qu'on voit ce qu'on peut faire, etc. Je vais appeler la police. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Là, tout ce que vous me dites, j'étais pas au courant et tout machin. Enfin bref. Et donc les SDF s'en vont dans la nuit. Ils se cassent. Et là, bah, le directeur de cabinet, il décroche son téléphone. Il appelle le commissaire. Il lui dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Vous avez fait quoi dans la forêt et tout machin. Le commissaire lui explique que c'est plus compliqué que ça, qu'ils n'ont pas expulsé les SDF, mais qu'ils ont été appelés sur place pour des violences, machin truc, etc. Probablement avec des SDF de la forêt qui étaient engagés. Bref, il s'agit pas de refaire la légitimité de l'opération et tout. Et il finit par lui dire mais en fait, qu'est-ce que vous avez fait sur place? Est-ce que vous avez détruit les cabanes et tout? Oui, quelques-unes, mais dans l'opération, machin. Bon. Est-ce que ta mémoire d'un calepin et tout machin et le commissaire dit mais de quoi tu me parles? Il fait non mais en fait je suis désolé mais j'ai vraiment besoin de retrouver un objet précis qui était sur le site. Je sais pas ce que vous avez fait sur le site, je m'en fous, c'est voilà. Explique-moi et le flic lui dit écoute j'en sais rien, tu m'emmerdes, je sais pas quoi te dire, moi non plus j'étais pas sur place, c'est les gars qui m'ont raconté et tout. Et il dit bah passe-moi les gars et tout, et bref il a passé une heure et demie au milieu de la nuit à échanger avec les flics pour essayer de retrouver, de comprendre, de machin, et il a fini par, dans une benne à ordures, remettre la main sur le calepin en question, sur le calepin des photos. Et le lendemain, au moment où le SDF est revenu à la mairie, il est revenu avec une bouteille d'essence et un briquet. Et il est arrivé à la mairie avec sa bouteille et son briquet, et il a dit au directeur de cabinet... Est-ce que tu as réussi à... Enfin voilà, et le directeur de cabinet lui a dit asseyez-vous, oui, rassurez-vous, machin. Donc il a essayé de calmer, il lui a rendu son calepin, évidemment, son recueil photo. Il lui a dit il faut qu'on trouve une solution, on ne peut pas continuer comme ça, dans la forêt. Il faut qu'on reste en contact d'une manière ou d'une autre avec le centre d'action sociale, parce que apparemment, l'opération de police cette nuit, c'est qu'il y avait des problèmes. Le SDF a reconnu en disant oui, il y avait des problèmes, il y en avait qui avaient bu, mais c'était pas moi et tout. Enfin bref, un broglio. Morale de l'histoire, il est 4h du matin, le directeur de cabinet va se coucher. Et ça a été une partie de sa journée, une petite partie de sa journée, ça a été ce problème-là en concret. Et c'est purement anecdotique, c'est vraiment une histoire qui s'est passée comme ça dans une mairie où on a fini par heureusement trouver une solution, mais voilà. Et les SDF, tout ça pour dire que les SDF étaient venus à la mairie. Ils ne savaient pas où aller. Ils étaient terrorisés. Ils étaient très en colère et tout machin. Et c'est à la mairie qu'on se retrouve. Donc, directeur de cabinet d'une mairie, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond à rester éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour régler des problèmes dont tu ne concevais même pas l'existence. Blague à part, le directeur de cabinet, c'est la personne qui est le collaborateur le plus proche du maire, qui est son alter ego politique et qui travaille avec lui à l'exercice de son mandat, qui l'accompagne, qui l'aide. C'est plus que son assistance, qui ne fait pas des tâches d'assistance, il fait des tâches de direction politique avec le maire. C'est son bras droit, oui, si on veut, c'est son bras droit, oui. C'est différent de l'adjoint? Oui, c'est différent de l'adjoint, parce que l'adjoint est un élu. L'adjoint est un élu du conseil municipal qui a des fonctions de maire adjoint, chargé ou pas de compétences particulières. Mais le directeur de cabinet, lui, c'est un agent payé sur fonds publics, évidemment, hein, mais c'est un agent qui travaille pour le compte du maire. Est-ce que toutes les mairies ont un directeur de cabinet ou c'est que dans les grandes villes? Non, c'est pas du tout dans toutes les villes. C'est que dans les grandes villes. Alors grandes, ça dépend ce qu'on appelle grandes, mais oui, tu commences à avoir un DIRCAB. C'est une bonne question. Tiens, d'ailleurs, je saurais pas te dire à partir de combien d'habitants on commence à trouver des directeurs de cabinet. Après, je vous rappelle que beaucoup de mairies fonctionnent en communauté de communes, communauté d'agglomération, etc. Donc, parfois, tu n'as un directeur de cabinet qu'au niveau de la présidence du comité de l'EPCI et pas au niveau de chacune des mairies, tu vois. Dans les petits villages, il y a le maire et c'est tout. Ouais, dans les petits villages dans lesquels il y a une mairie, il y a le maire et c'est tout. En général, il y a aussi un ou une, c'est toujours une. C'est souvent des femmes. Secrétaire de mairie. Dans les petites communes en France, la secrétaire de mairie, c'est la femme qui tient littéralement la mairie à elle toute seule. C'est-à-dire que tu as un patelin dans lequel il y a une mairie, et tu as une secrétaire de mairie qui n'est là que le lundi. Parce qu'en fait, le mardi, elle est aussi secrétaire de mairie, mais dans une autre mairie du coin. Et y a des femmes comme ça qui sont secrétaires de mairie dans trois, quatre mairies différentes. Et elle relève le courrier, et elle prépare, je sais pas quoi, les paraffeurs, les machins, elle vérifie le tout venant, etc. Elles font des récaps et tout. Et la secrétaire de mairie, elle a la clé de la mairie, elle ouvre la mairie pour aller bosser à l'intérieur, et puis elle ressort de la mairie en fermant à clé, et il n'y a pas le maire dans la mairie, hein. Parce que le maire, c'est qui? Bah, le maire, c'est Michel, l'agriculteur. Et Michel, l'agriculteur, il n'est pas à la mairie, hein. Je vous dis, Michel, il est dans son champ, il bosse, en fait. Michel, il s'occupe de la mairie une demi-journée par semaine, et encore quand il a le temps. Voilà. Et il fait le point avec la secrétaire de mairie. Allô, Josiane, ouais, raconte-moi, qu'est-ce qu'on a? Écoute, on n'a pas grand-chose cette semaine. J'ai reçu un courrier de la préfecture. Apparemment, tu sais, c'est toujours le champ de Madame Truc. Ah ouais, merde, le champ Truc. Putain, faut vraiment qu'on avance là-dessus. Bon, et sinon, quoi d'autre? Non, bah, sinon, rien. Voilà. Voilà. La vie d'une mairie dans un tout petit bled, c'est ça. Et pourquoi on ne crée pas des fonctionnaires d'État qui doivent tenir toutes les mairies de France? Ben, ce que je viens de t'expliquer, c'est exactement ça. C'est ça, les secrétaires de mairie, ce sont des fonctionnaires territoriaux qui gèrent toutes les mairies de France. Voilà. Les maires dans les petites communes font bien plus quand même. Ouais, alors là, je vous ai pris la caricature du petit village rural dans lequel le maire, c'est l'agriculteur du coin, et dans lequel la secrétaire de mairie ne vient qu'un jour par semaine. On est vraiment sûr, il ne se passe pas grand-chose dans le village. Les mariages, il y en a un tous les 2 ans. Voilà. Après, effectivement, non, t'as des petites mairies où là, tu peux vite monter en pression et en intensité de travail, vu la quantité de trucs qu'il y a à faire. Hein. Y a un cap à partir de combien d'habitants environ? Je sais pas, je sais pas. Je saurais pas te dire à partir de combien d'habitants on rentre dans les trucs plus complexes. Les élections sont géniales dans les petits villages. Tu viens avec une liste de noms de gens au pif et c'est un vote validé. Bah ouais. Mais je vous rappelle que chaque élection municipale en France, il y a de moins en moins de mairies. Et je ne vous dis pas ça à cause des regroupements de communes, des fusions de communes, etc. Je vous rappelle qu'il y a de moins en moins de maires en France. De plus en plus de mairies se retrouvent dans une situation de ne plus avoir du tout de maire. Pourquoi? Parce que personne ne se présente à l'élection. Personne ne se présente à l'élection. Dans le village Truc, ça fait 30 ans que c'est Michel qui se coltine le mandat de maire. Personne n'a pensé à lui dire merci d'ailleurs à Michel. Mais bon, c'est lui qui fait le taf et comme ça on se pose pas de questions. Tous les 5 ans on revote pour lui, merci Michel. Et bah, vous savez quoi, cette année il est mort Michel. Oh bah merde. Bon bah on fait quoi? Qui c'est qui reprend? Bah personne en fait, personne n'a envie de reprendre. Le taf que fait Michel depuis 30 ans, il s'est payé combien? C'est payé 400 balles. 400 balles? Mais c'est rien! Bah non, c'est que dalle. Ah bon? Bon bah non, personne n'est chaud. Bon bah du coup, on fait pas d'élection municipale. Et dès lors, la mairie n'est plus. Il n'y a plus de maire dans cette ville. La mairie est placée sous. Merde. Sous autorité préfectorale. Voilà. C'est la préf qui, à partir de maintenant, gère la ville. T'as un problème, tu te démerdes, tu vas voir la préf. Ouais, mais c'est pas facile, elle est à 70 km, ton problème. C'était pratique quand il y avait Michel. Bah ouais, c'était pratique, ouais. Mais comme personne n'a voulu reprendre. Sous tutelle, voilà, je cherchais la tutelle préfectorale. Donc bon, voilà. Et ça, le scénario que je viens de vous donner, il arrive dans plein de mairies. À chaque élection municipale, on se retrouve dans des mairies sans maire. Il n'y a pas de maire, il n'y a plus personne, plus personne gère. Et voilà. Et maintenant, la ville, le village est géré par la préf. Merci à nos élus locaux. Bah ouais, c'est pour ça que bon, vous l'aurez compris, moi je suis un défenseur vocal de la démocratie locale et des élus locaux parce que je trouve à titre personnel que la politique, c'est bien beau quand il s'agit d'avoir des grands discours sur l'état du monde, le capitalisme, le nationalisme et tout ça, tout ça, tout ça, mais que ça devient une autre paire de manches quand il s'agit de concrètement résoudre les problèmes de la famille Truc qui n'a pas de logement et le gamin qui n'a pas d'école. Voilà, ça c'est le boulot des élus locaux qui passent leur temps à faire rentrer des carrés dans des ronds, à s'arracher les cheveux dans des réunions interminables dans les services préfectoraux pour faire avancer un bout de dossier qui permet éventuellement de réussir au bout de 3 ans de travail à faire un peu avancer la vie des habitants. Et personne ne s'en rendra jamais compte, personne ne saura quand vous voyez un espace de jeu pour enfants, dites-vous quelque part dans votre tête que derrière cet espace de jeu pour enfants, il y a des réunions interminables qui ont eu lieu avec des gens qui avaient sincèrement à cœur de se poser la question de c'est quoi les jeux pour enfants qu'on va mettre dans tel quartier. Et ça, c'est cool. C'est cool que des gens s'en soient souciés à un moment. Et au milieu de tout ça, t'as Josiane qui vient casser les couilles chaque mardi parce que le talus en face de son garage est pas tondu. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, bah ça fait partie du taf. Ça fait partie du taf. C'est ce qu'on appelle ça les citoyens consommateurs. Il y a des thèses hein, qui ont été écrites en sociologie sur le sujet. Les citoyens consommateurs, ce sont des personnes qui se comportent avec les pouvoirs publics, y compris locaux, de la même manière qu'ils se comportent avec les salariés de chez McDonald's, Zara ou SFR. C'est-à-dire qu'ils estiment être quelque part clients, dès lors redevables d'un service de qualité. Et ce sont des gens qui se permettent d'exiger, qui se permettent de faire savoir leur impatience à ce que il leur arrive des choses qui leur reviennent de droit. Bon bah ça existe, voilà, sachez-le, ça existe. Il y a des gens, oui, qui se présentent à l'accueil de la mairie pour gueuler, parce qu'ils trouvent ça absolument intolérable que je sais pas quoi, leur trottoir a pas été lavé ce matin. Et parfois c'est légitime en termes de dérangement, ça peut arriver. Alors, un truc, il se trouve que moi, la mairie dans laquelle j'ai bossé, elle est à Paris, c'est une mairie d'arrondissement. À Paris, il y a des travaux. Figurez-vous qu'à Paris, il y a des travaux. Ça fait à peu près 2 500 ans qu'il y a des travaux à Paris. Voilà, sachez-le, ça fait partie de la vie. Voilà. Bon, et ben, il y a des gens qui viennent à la mairie pour hurler parce qu'il y a des travaux qui ont commencé en bas de chez eux et qui trouvent ça absolument intolérable. Et donc, on essaye de leur expliquer que c'est des travaux de conduite de gaz. Donc c'est un peu important. Oui, c'est un peu impressionnant, mais c'est surtout un peu important. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de gaz et que du coup, machin, et ils veulent rien savoir, et puis j'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas. Ils se démerdent, mais moi, sous mes fenêtres, je veux pas qu'il y ait des engins de chantier, machin et tout. Voilà, tous les jours. Tous les jours, il y a des gens pas contents parce que, oui, mais chez moi. Moi, je me souviens d'une dame dont je tairai le nom, qui était venue gueuler parce qu'elle me disait « C'est quand même n'importe quoi. Tous les matins, j'ai un camion poubelle qui me réveille parce qu'ils ramassent les poubelles le matin. C'est quand même n'importe quoi de faire tourner les camions poubelles le matin. Moi, je voudrais voir comment c'est possible d'organiser différemment les choses pour que les camions poubelles y passent plutôt le soir que le matin. Et donc, je la regarde et je lui dis, d'accord, bien compris votre dérangement, mais qu'est-ce qui vous fait croire que les camions poubelles circulent le matin? Elle me dit, mais elle est débile votre question, puisqu'ils sont là tous les matins dans ma rue, c'est bien qu'ils sont là que le matin. Je dis, oui, ils sont là que le matin dans votre rue. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, mais madame, les camions poubelles, ils circulent toute la journée, tout le temps. On est une ville de 2 millions d'habitants, vous croyez qu'on fait passer les camions poubelles que le matin? On n'a pas du tout les moyens. C'est toute la journée, les camions poubelles, en fait. Ça n'arrête jamais. Y a pas de... Et en fait, elle n'avait pas percuté. Voilà, bon, bah, elle vivait seule, entourée de 2 millions d'habitants. Et pour elle, ça n'avait pas de conséquences. C'est le matin. Je dis, ben non, c'est pas le matin, c'est toute la journée. Donc il se trouve que c'est le matin qui passe dans votre rue à vous, j'en suis désolé. Si vous voulez revoir le schéma de circulation des camions de poubelle, je vous invite à vous adresser au bureau. Vraiment, je lui ai vraiment répondu ça, hein. Alors, j'ai pas inventé, mais je lui ai dit, il faut que vous contactiez effectivement le commissaire divisionnaire chargé de la propreté de l'arrondissement. Il va vous montrer le schéma de la circulation des camions de poubelle. Si vous avez une remarque à faire, il sera très ravi de l'entendre. Et là, elle m'a dit, ouais, non, non, mais c'est bon, c'est bon. Je crois que, ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bah, on va pas se plonger dans le schéma de circulation. On a bien vu que voilà. Non mais elle a tenté. Non mais en fait elle a pas tenté. Elle est venue gueuler. Elle est venue gueuler parce que elle, de son point de vue à elle, elle subissait une contrariété, un dommage, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible. Je veux bien admettre que ce soit chiant d'avoir un camion de poubelle qui travaille le matin, ça fait du bruit, etc. Oui, je veux bien l'admettre. Mais nous, la mairie, on n'est pas là pour s'occuper des subjectivités de chacun. On est là pour un peu avoir un point de vue macro sur le bordel et de dire, mais en fait, tu n'es pas toute seule. C'est complexe, en fait. C'est beau, voilà. Non, mais donc les citoyens consommateurs, ça existe. Malheureusement, ça a tendance à... Ça a tendance à, je trouve, à progresser, à aller de l'avant. On a vu que des maires et des élus locaux maintenant se faisaient agresser. C'est déjà arrivé, vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans, je crois, qu'il y avait eu des agressions particulièrement spectaculaires d'élus locaux qui avaient beaucoup marqué les esprits. Donc, bon. Tout ça est chiant, quoi. Il paraît que c'est une plaie chez les parents d'élèves aussi. Non. Me lance pas sur les parents d'élèves. Ne me lance pas sur les parents d'élèves. J'ai des PTSD professionnels qui reviennent. Sur des parents soucieux de la qualité de l'enseignement que l'on donne à leurs enfants. La team prof plus soi. Putain, j'ai tellement de respect pour vous, les gars. Parce que moi j'étais le côté mairie, hein. J'étais pas le côté prof. Moi, je les avais pas tous les jours, hein. Mais quand je les avais, je tombais sur des dingueries. J'avais reçu un courrier d'une maman qui me disait que son enfant de 2 ans et demi avait été diagnostiqué par un psychiatre américain très célèbre. Elle avait précisé très célèbre. Et elle disait qu'il était au potentiel intellectuel et probablement un génie. Et elle voulait voir avec la mairie comment il était possible éventuellement d'aménager son éducation pour lui permettre d'avancer plus rapidement. Machin. On parle d'un gosse de 2 ans et demi. Hein. J'étais en mode. Pardon, j'ai pas d'enfant moi-même, mais 2 ans et demi. 2 ans et demi, Mozart, il va se calmer. Hein, parce que Mozart, il joue encore avec son caca. Vraiment. Les bourgeois. Alors, c'était, en l'occurrence, ça aurait pu, mais c'était pas le cas. Non, non, c'était pas bourgeois, c'était. Parce qu'en plus, non, mais la meuf, elle écrivait tout ça à la mairie. La mairie, nous, on s'occupe du public, hein, on s'occupe pas du privé. Si t'as plein de pognon, etc., déjà, t'habites pas dans ces quartiers-là. Et ensuite, tu peux envoyer tes gamins dans le privé, tu te démerdes et tu vois avec eux. Alors là, tu vois avec eux. Mais non, non, elle envoyait à la mairie parce qu'elle voulait quand même rester dans l'arrondissement, dans le quartier populaire dans lequel elle habitait. Donc ça sentait pas le pognon, quoi. Donc voilà. Je sais plus ce que. Je crois que c'était un courrier, donc je ne l'ai pas eu au téléphone, ou je ne lui ai pas parlé, ou je lui ai rien dit, mais. Et j'aurais voulu lui dire, vous savez quoi? On va faire une première année à la crèche, hein? Puis on va faire un point. Vous ferez un point avec l'enseignante au bout de l'année. Voilà, on verra. Hein. On verra Einstein ce qu'il fait. La prépa crèche. C'est pas la mairie qui va gérer ça, si? Non, c'est pas, bah, c'est moi qui reçois le courrier, donc c'est moi qui dois préparer une réponse, tu vois. Non, mais on a eu, enfin voilà, on a eu des problèmes dans les cantines, parce qu'évidemment, on s'occupe de la cantoche aussi, donc la cantine. Les enfants qui se plaignent que la bouffe, elle est pas bonne. Alors qu'en fait, dans la bouche d'un enfant, la bouffe à la cantine, elle est pas bonne. Ça veut dire la bouffe à la cantine, elle est pas comme à la maison. C'est plus complexe, c'est plus subtil, c'est pas pareil, c'est. Voilà. En fait, elle est très bien, la bouffe. Hein. C'est vrai, c'est de la restauration collective. Hein. Effectivement, c'est pas incroyable, mais c'est. Voilà. Moi, je me souviens, on avait fait des commissions, on avait travaillé avec les enseignants aussi sur la qualité des menus scolaires et tout. Et les enseignants nous disaient, mais en fait, les enfants ont une sociabilité tellement différente à la nourriture à la maison qu'on peut pas savoir quels sont leurs critères à eux et quels sont leurs standards à eux. Parce qu'il y a des enfants qui ne mangent que des nuggets à la maison. Ça existe, hein, des nuggets micro-ondés. Les enfants n'ont que ça à dîner tous les jours. Et donc, à la cantine, pour la première fois de leur vie, ils ont une blanquette de veau. Donc un plat en sauce, avec des fèves, avec des. Enfin bref, et ils trouvent ça dégueu. Et évidemment, si ton standard c'est les nuggets, oui, ça fait très bizarre. Je me souviens, on avait des petits enfants qui étaient d'origine pakistanaise, je crois. Pakistanaise, ils étaient adorables et on discutait avec eux et je leur disais, mais à la maison tu manges quoi? Ils me disaient, à la maison on mange que de la mange que le que de que de la nourriture du pays de maman. Je dis, d'accord, donc c'est pakistanais. Ouais, c'est de la nourriture pakistanaise. J'ai dit, alors c'est bon? Il me dit, oui, c'est très très bon. Et à la cantine c'est pas bon parce que ça a pas de goût. Je dis, mais ça veut dire quoi, ça a pas de goût? Il me dit, mais non, mais je sais pas, ça fait rien dans la bouche comme à la maison. Je dis, mais à la maison ça fait quoi dans la bouche? Et il me dit, mais en fait à la maison ça pique. Et là, j'étais en mode, ah bah oui, du coup, non mais oui, effectivement, effectivement, il bouffe turbo piquant à la maison, il arrive avec sa blanquette de veau à la cantoche, ça n'a pas de goût. Effectivement, pour un enfant, bah oui, ça n'a pas de goût. Cette putain, cette fucking. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je reste sur la blanquette de veau depuis tout à l'heure. Hein. Elle m'a marqué visiblement, mais voilà. Et on avait eu, bah tu vois, ça aussi dans le genre anecdote au collège. Vous vous souvenez peut-être de votre collège, quand on prend son plateau à la cantine, qu'on passe au self, on a le droit à une entrée, on a le droit à un plat chaud, on a un plat principal, on a le droit à un dessert, plus un laitage, plus un bout de pain. Vous savez, le bout de pain de la cantine là. Voilà, t'as le droit à un bout de pain. Voilà. Et la règle, tous les calculs de préparation sont faits et d'achat, hein, de stock sont faits sur la règle, c'est un pain par personne. C'est un pain par enfant, c'est la règle. Bon, bah voilà, vous vous souvenez, hein, dame de la cantine qui disait tu prends un pain et pas deux. Bon. Et j'en parlais avec une principale de collège ou une responsable de l'équipe de la cantine. Je leur disais, mais dans cette école, les stats montrent que. Il y a genre 150% de pain en plus que le nombre d'élèves, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle me disait, bah, en fait, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que la règle de un pain par enfant, elle marche bien en théorie. Mais en réalité, je vous rappelle que on a affaire à des adolescents qui sont roublards comme pas possible. Il y en a qui sont voleurs. Donc t'inquiète que s'ils ont envie de se taper un deuxième morceau de pain, ils te tapent un deuxième morceau de pain. Et alors toi, tu peux toujours jurer, à moins de foutre un flic à chaque distribution de pain de chaque école de ce pays, t'inquiète que les gamins, ils vont t'en chourer du pain. Donc il y a un moment, bon, pour éviter la situation où les premiers ont bouffé tout le pain et les derniers qui arrivent n'ont plus de pain, bon, bah on est obligé de prendre plus de pain. Elle me dit la deuxième raison, c'est qu'on a affaire à des ados. Certains de ces ados mesurent 1m75, 1m80. vous verriez les gabarits des bonhommes, ceux qui jouent au foot là, bon. Eux, les quantités de bouffe qu'on leur donne, elles ne sont pas calculées sur leur métabolisme. Et je vous rappelle qu'on a affaire à des ados. Du genre à jouer au foot toute la journée, à se dépenser à mort, bref, à mourir de faim. Donc ces mecs-là, ils t'encaissent des baguettes de pain, que t'inquiète qu'ils pourraient en prendre 5, ils en prendraient 5, tu vois. Et là, tu dis, ouais, effectivement, j'ai pas... oui, un ado, ça bouffe. Un ado, ça bouffe sa mère. Un ado, surtout un garçon. Voilà. Le corps en pleine croissance, comme dirait l'autre, ça bouffe pour 10. Et puis, troisième chose, elle me dit, il y a aussi des enfants, on le sait, il y a aussi des enfants qui n'ont rien à manger à la maison. Il y a des enfants qui sont trop pauvres. Il y a des enfants qui nous prennent un deuxième, voire un troisième morceau de pain, on le sait, et on laisse faire, parce que l'on sait que ce morceau de pain, c'est leur dîner. Que le lendemain, on va les retrouver à 8 heures, le ventre vide, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà. Donc moi, j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, bon, vous savez quoi? On va rien changer, hein, au chiffre. Vous continuez comme d'hab. Prenez 150% de pain en plus. On dira qu'on savait pas. On va se faire allumer par la Cour des comptes. Sûrement, je m'en branle, c'est pas grave. C'est... Voilà. Bon, voilà. Les opérations petit-déj au collège, c'était bien, mais c'était très très bien les opérations petit-déj au collège. Très très bien. Encore une fois, et c'est toujours la même chose, c'est pour les enfants les plus pauvres que c'est le plus utile et efficace. C'est comme tous les dispositifs de réussite éducative, tous les dispositifs de soutien scolaire, etc. C'est d'abord et avant tout sur les enfants les plus pauvres que ça a le plus d'effet. Les autres, ça peut éventuellement les aider, etc. Tant mieux pour eux, mais ça peut changer la vie d'un enfant. De bénéficier d'un dispositif de soutien scolaire, d'aménagement, de machin, etc. Voilà où va l'argent public honteux. Ah ouais. Dans le ventre des enfants pauvres. Terrible, hein? Non, mais c'était des très belles années. Moi, j'ai vraiment des bons souvenirs hein, de ces années à l'école, enfin à l'école, aux affaires scolaires, parce que moi, j'étais chargé de mission affaires scolaires et périscolaires. J'ai dû gérer un nombre d'embrouilles incalculables. J'ai des idées très arrêtées sur les profs, sur les animateurs, sur les parents d'élèves, sur les inspecteurs de l'éducation nationale, sur les services de la mairie aussi. Hein, Je crois que voilà, chacun mérite une paire de tartes, mais en même temps, quel plaisir de bosser avec des gens aussi formidables dans une si belle institution qu'est l'école. Je suis surveillante et je mérite des paires de baffes. Sans doute, sans doute. Le prochain article de Capital, le scandale du détournement de pain à la cantine. Ouais, c'est ça. Dans les mairies de gauche, il semblerait, selon les chiffres de la Cour des comptes, que les enfants mangent plus de pain. Il y a donc un large système de détournement de baguettes de pain que des adolescents délinquants boulotteraient discrètement en cours même. Des enseignants sous couvert d'anonymat témoignent dans nos colonnes qu'ils ont vu des enseignants boulotter des petits morceaux de pain discrètement pendant les heures de cours où on leur apprenait Clovis. Ce qui montre bien... Non mais c'est vrai, je vais partir dans des trucs racistes. C'est bon, vous avez compris. Ça n'écoute pas en cours, ça préfère boulotter des petits morceaux de pain. Et d'après des révélations qui ont été faites par des surveillants qui ont témoigné, certains adolescents ne penserait qu'à rouler des pelles à des adolescentes. Il semblerait que les hormones s'agitent beaucoup chez ces délinquants. Et après, une fois qu'ils ont roulé des pelles au collège, discrètement dans la cour, enfin dans les vestiaires, et qu'ils ont boulotté du pain toute l'après-midi pendant le cours d'histoire géo, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire du skateboard sur les trottoirs pour faire peur aux vieilles dames. Il nous revient donc d'imaginer de toute urgence une politique publique de redressement de la jeunesse qui passerait par une mise au pas de ces délinquants avec des saluts au drapeau, des flics dans les établissements, des contrôleurs de métaux à l'entrée des lycées et des collèges, une interdiction du jeu vidéo, de la musique hip-hop, et des uniformes. Et oui, il faut l'uniforme. Il faut uniformiser la jeunesse, il faut leur coller des uniformes. Et attention, il faut que les élèves soient en uniforme matin, midi et soir, week-end compris. Donc, l'uniforme national que devront porter les jeunes de France comprendra des vêtements de jour, un pyjama, et c'est tout. Et les parents en uniforme aussi. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, dans le but de lutter en faveur de la... comment ils appellent ça déjà ? Oui, du gommage, pardon, la politique de gommage des inégalités. Nous allons gommer les inégalités à l'école, d'accord ? Donc, on va mettre, évidemment, les élèves en uniforme, mais on va mettre les profs aussi en uniforme. Déjà. Ensuite, comme on sait que les inégalités ne se transmettent pas seulement par les fringues, mais aussi par le langage, on va interdire les accents. On va interdire les accents. Donc, tous les élèves de France auront l'obligation, dès la rentrée prochaine, de parler avec l'accent tourangeau. Voilà. Donc, d'une part. Ensuite, quoi d'autre ? Pour éviter, pour toujours dans la politique de gommage des inégalités. Parce qu'apparemment, c'est très important de gommer les inégalités. Attention, hein, faut les gommer. Faut pas que ça se voit. Il faut que tous les élèves de la classe se mettent au niveau de l'élève le plus petit de la classe. Donc les élèves plus grands vont devoir flexionner les genoux pour se maintenir toujours au niveau de voilà, hein, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors oui, évidemment la musique. Les jeunes n'auront plus le droit d'écouter ce qu'ils veulent. Les jeunes, les adolescents de France, en uniforme, n'auront le droit qu'une heure par jour à écouter qu'une seule playlist officielle. C'est la playlist officielle de l'éducation nationale. Voilà. Elle sera faite par Thomas Joly, parce que quand même, bon voilà. Mais quand même, il y a une seule playlist. Et après les vacances de Noël, les enfants auront l'interdiction d'échanger au sujet des cadeaux de Noël qu'ils ont reçus. Bah ouais, non, parce que du coup, parce que s'ils se parlent, du coup, il y a l'inégalité, tu vois, on se rend bien compte de ceux qui ont des cadeaux ou pas de cadeaux, tu vois. Donc, en fait, il y aura l'interdiction de parler à la récré du 3 janvier, là, des cadeaux de Noël. Ils n'auront pas le droit de débriefer Noël. Ça, c'est bien, ça. Donc là, non, mais vous avez vu comment on gomme les inégalités, hein. Vraiment, il faut que les élèves ne se rendent pas compte. C'est très important que les élèves, que les enfants, que les jeunes ne se rendent pas compte des inégalités. Parce qu'on sait qu'elles existent. Mais on a bien dit que notre but n'était pas de lutter contre les inégalités, notre but était de gommer les inégalités. Donc, on essaye de rendre invisibles les inégalités. C'est... Voilà. Non, je pense qu'on a progressé, hein. Ex-URSS, ouais. Non, mais c'est. Enfin, évidemment, les élèves n'auront le droit d'échanger qu'un seul Pokémon par jour. De manière à gommer les inégalités, l'éducation nationale donnera à tous les enfants qui n'en ont pas des cartes Pokémon de manière à avoir une égalité dans la cour de récré en matière de d'échange. Pareil pour les billes. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais bref. Un deck de base, voilà, il y aura un deck de base. Il y aura un deck de base dans l'académie qui sera donné à tous les enfants. Ce sera le deck de base. Ouais. Pareil pour les Pogs. Les cartes Yu-Gi-Oh! Ce sera pareil et tout. Non, non, c'est le ministère décidera des sujets de conversation. Bah oui, parce que les inégalités, en fait, si le gommage des inégalités, il faut aller très très loin. Parce que si tu changes juste le vêtement des enfants. Parce que moi, j'ai été en uniforme à un moment dans ma scolarité. Je crois que dès la quatrième minute de l'année scolaire, je savais qui était riche et qui était pauvre dans ma classe. Hein. Alors vraiment, l'uniforme. Voilà. Ouais, non. Le verlan sera interdit, évidemment. Sous le contrôle de l'Académie française. Et les identités de genre ont fait quoi? Ah bah évidemment, on interdit le wokisme. On interdit le wokisme, donc il n'y a que deux genres qui sont imposés à chaque début d'année scolaire par le rectorat. Un peu comme Trump qui envoie des listes de mots interdits aux fonctionnaires, ouais. Tu tires ton genre dans le choixpeau. Est-ce qu'on pourra encore parler d'amour, genre s'envoyer des cœurs, tout ça? Ah non, mais ça c'est interdit, ça. Les adolescents auront l'interdiction de se rouler des galoches discrètement dans les vestiaires de la salle de sport. Ah non, plus de roulage de galoches. Ou alors faudrait un système organisé de galochage pour garantir l'égalité de la galoche, mais là. Là, on part dans des politiques publiques. Non, ouais. Et le remembrement démographique. Oh, comment on fait? Est-ce qu'on aura le droit de jouer à touche pipi dans les buissons? Ça devient douteux. Ouais, en plus, on parle d'ado là. Non, vous êtes glauque. Vous êtes glauque. Non, non, vous êtes glauque. Travaux pratiques d'éducation sexuelle. Ah oui. Dans le cadre de la politique d'éducation affective et sexuelle, les adolescents seront incités à expérimenter par eux-mêmes discrètement un certain nombre de concepts qui auront été vus en cours. Le sens de rotation de la langue sera harmonisé par le ministère. Non, ouais. Préparation au réarmement démographique. Ah ouais, préparation au SNU, hein. Avec des schémas explicatifs. Avec la main comme ça. Les ados. On dira, voilà comment on fait des galoches. Bon, voilà, bon, c'est bien, on a bien gommé les inégalités. Moi, je suis fier de nous. Je suis fier de nous, les amis. Je trouve qu'on a bien gommé les inégalités. Je pense qu'avec notre scénario là, on se dirige vers un monde meilleur dans lequel les jeunes seront incapables de voir les inégalités. Trop bien. On a créé une génération totalement incapable d'imaginer la possibilité même d'une inégalité. C'est la victoire de la France. C'est formidable. C'est le grand IPEX de la République. Ouais, c'est ça. Bravo à nous. Non, non, franchement, c'est... On a résolu l'idée. On a poursuivi l'idée de l'uniforme à l'école, de toutes ces politiques de gommage des inégalités. Le sujet de base, c'était pas la politique internationale, on a un peu drifté. Ah, on est parti loin. On a parlé de la primaire à gauche aussi à un moment. Ouais, on est parti loin, c'est de votre faute. Hein. Bon, du coup, j'ai pas fait la prog cette semaine. Oh, vraiment, c'est streamer. J'ai pas fait la prog cette semaine, faut que je la fasse. Je la ferai demain. Famous last word. Au programme, demain, question au gouvernement à l'Assemblée nationale. À partir de 14h. Mercredi, j'aurai probablement pas le temps de faire les QAG. Donc on se retrouvera plus tard pour une revue d'actu. Jeudi, backseat, 19h. On sera avec Emilio, Léa et Usul. Et on recevra Manuel Bompard de la France Insoumise. Et vendredi, je peux pas. Ils sont revenus, les QAG. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les QAG reviennent. Ah, attendez, non, mais attendez, parce que moi, je dis des trucs, là. Je dis des trucs, je me connais, je suis pas allé vérifier. Et demain, je vais le regretter. QSD, question au gouvernement, 15h. Ouais, c'est bon. Mardi, 15h, question au gouvernement. Donc, je prends mon live à 14h. Tout va bien. Hop. D'ici là, ce soir, je vous invite à aller vous coucher dans votre pyjama de la République, de l'uniforme dont on a parlé tout à l'heure. Ceux qui ont des partenaires, vous avez le droit de les galocher en tournant la langue dans le sens décidé par le rectorat. Les autres, nique. Ben non, du coup, niquez pas. Passez une bonne nuit. Merci. N'hésitez pas à expérimenter ce que vous avez vu en cours d'éducation affective et sexuelle. Hein ? Avec la main, messieurs. Stop, stop, on arrête. Non, non, c'est dégueulasse. Des bisous, j'arrête de dire des conneries. On se casse, c'est demain. Allez, ciao, bye bye, au revoir.
cette vidéo.